Pas mal ça, hein? Haha! Petite musique sympa pour se réveiller. Un stream dès le lundi matin, on est comme ça. Excellente technique, la casquette pour se coiffer, ça me chevalier de poulet d'or, exactement. C'est une technique réservée à un tout petit groupe, hein. Il y a très peu de gens qui connaissent cette technique, pourtant qui est extrêmement efficace, mais après qui est passée sous silence, hein. Moi, j'ai eu accès à des documents, comment dire, très confidentiels, notamment d'une union internationale des coiffeurs. Qui essaie d'empêcher en fait cette information d'arriver au grand public. Hein, la casquette, là, c'est une simple casquette, vous permet de vous coiffer en fait. Ouais, regardez, le matin, vous vous réveillez, vous avez les cheveux dans tous les sens, hein. Hop, vous mettez une casquette, 5 minutes, vous êtes coiffé pour la journée. C'est incroyable. Ça, c'est un secret que les coiffeurs ne vous diront jamais. Moi, je vous le dis parce qu'ici, on partage les infos essentielles. Ah, comment ça va? Oui, les coiffeurs le détestent, exactement. Heureux de vous retrouver, les amis. Ça stream dès le lundi matin, on est comme ça. Faites rire avec vos commentaires. Puisque c'est vrai que j'ai été un peu empêché de faire de la revue de presse ces dernières semaines parce que beaucoup de choses, beaucoup de questions pour un champion, beaucoup de projets, beaucoup de choses comme ça. Bon, le mois de juin qui arrive va être chargé aussi, mais c'est pas grave. On va s'appliquer à faire un maximum de revues de presse. Salut Boubou. Un maximum de revues de presse, voilà, et du stream toujours le soir. Aujourd'hui, c'est double stream aujourd'hui. Hein. Forcément, il y aura un petit peu de gaming ce soir. Double stream, les amis. On veut de l'info, me dit French Yu-Gi-Oh. Ça rime, c'est cool. Je remercie Nuno124 pour le gentil message qui m'a fait rire. Le 19e mois d'abonnement, c'est beaucoup. Cyril8574 pour le 28e mois, c'est encore plus. Sigur Bjorn, les habitués sont là. 13 mois d'abonnement. J'ai le droit à de l'argent du coup. Non, mais merci beaucoup. Cyril, pour le 28e mois, merci Cyril. Armaldo, pour le 2e mois, merci à toi Armaldo. Neox, pour le 5e mois, 5 mois de bonheur, merci pour les streams, trop gentil. Aline41, je t'ai vu tout à l'heure, merci pour le 16e mois. Rouliab, pour le 13e mois. Oxylian37, ça fait plaisir pour le Prime. Elorante, Anto, Gloglo, ou plutôt Goglo, le Boukake, Back Wolfie, ce sont les gens qui ont sub pendant la nuit que je n'ai pas pu remercier parce que je dormais pas longtemps, mais. Ouais, double stream aujourd'hui, double stream. Merci Exutoire à l'instant et Zelbanichel pour le 3e mois. Merci à tous les deux. Comment ça va vous? Petite revue de presse dans un instant, je vais vous montrer ce que je vous ai mis de côté. Tiens, ce que j'ai. Ma tablette marche, je vais même pas vérifier. Pas du tout, elle marche pas. Tiens. Je vérifie toujours ma tablette avant de lancer mon stream, puis là, je ne l'ai pas fait parce que ça marche tout le temps. Puis là, ça marche pas. Donc, hop. Alors, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Viens par là, toi, petite tablette. Désactiver. Ah, à moins que quelqu'un m'ait piqué ma carte graphique. Ma petite carte d'acquisition, plutôt. Tiens, c'est bizarre. Permettez que j'aille vérifier un truc. Bon, bah, elle est pas branchée, j'arrive. Ça s'est allumé? Pas trop, hein? Ça s'est pas trop allumé, hein? Bon, régler ça, c'est rien du tout. Alors, où es-tu, petite tablette? Alors, je t'ai déjà désactivé un petit coup. On est sur le. Ouais, on est sur le, la deuxième, parce que j'en ai deux. Truc d'acquisition, là. Quand je chantonne, en général, ça marche mieux. Ah! Peut-être récupérer quelque chose là. Non, toujours pas. C'est bizarre. Ouais, on va parler de Thibaut Inchep qui est devenu, selon les chiffres, premier youtubeur de France. Il y a un article dans le Figaro, je crois, là-dessus. Dans mon livre, ça restera Squeezie, me dit French Yu-Gi-Oh. Ça sent le débat, ça. Je tente le changement de carte, mais je pense pas que ce soit la bonne idée. Attends, ouais. Pourtant, on n'a rien changé par rapport à vendredi. Mmh. Exutoire, en effet, la revue de presse, ça fait longtemps. Le streamer ne fait même plus comment ça marche. C'était vendredi, la dernière. Vendredi, ça s'appelle de la désinformation, ça s'appelle de la fake news, ça. Vous n'êtes pas très sérieux, ça manque de rigueur. Ça n'est pas très bien. Ah, voilà. Je pense que c'est tout simplement un faux contact. Et voilà. Oh, les mauvaises langues. Exutoire, attention au clic droit. La Diva Créole, merci pour le 33e mois. Mywen, merci beaucoup pour le soutien. Le train de la hype vient de démarrer grâce à vous. Incroyable, c'est énorme. Le train de la hype qui, lui, savait que j'allais résoudre le problème technique. Voilà. Vous avez vu que ça stresse pas ici. Voilà. C'est rien à régler, un setup, c'est rien du tout. De 2-3 câbles à vérifier en général, tout se passe bien. Frisquetosaur, merci pour le 23e mois. La Marmotte Folle, merci pour le Prime. Vavrine, merci pour le Prime. Vous régalez, Exutoire, merci beaucoup pour le 4e. Du 19e mois, que dis-je ? Un petit Valo après les journaux ? Non, pas de Valo après les journaux, mais un Valo ce soir, bien sûr. Double stream aujourd'hui. Wayuki, merci de live, Samuel, tu m'aides à sortir du lycée cool. Je l'ai fait pour ça d'ailleurs, Wayuki. À la base, c'était pour toi. Je vois un bonjour de Belgique qui me fait plaisir de papatissier. Peut-être que c'est ton métier, et dans ce cas-là, c'est un très beau métier. Quand tu fais que des shorts. Ah, ça débat sur Thibaut Inchep, on va en parler. Oui, Mywen, n'hésite pas à aller sur le site de la SPA, tu vas trouver le lien pour faire un don à la SPA. On était en live caritatif hier de 18h à 20h pour la SPA. J'étais totalement bluffé par les dons que vous avez faits. 3 600 € en 2 heures, je crois, sur mon compte. C'était trop. Enfin, mon compte, celui de la SPA, mais mon compte pour celui de la SPA. Vous m'avez trop soufflé quoi. Tu vas arrêter le match de la France aujourd'hui, j'ai pas la ref. Le match de la France de quoi? Je vais surtout essayer de regarder Nadal, surtout Zougoulou. Match de la France de quoi? On parle du Proche-Orient tous les jours, Reignovic ici, quand il y a des articles intéressants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On en parlait vendredi dernier, on en parle quasiment tous les jours. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ouais. Petite tablette devient grande. Ouais, deviendra grande. Elle est grande, ma tablette. Mais tu sais, à mon âge, il faut des gros caractères. Donc, c'est la plus grosse tablette. La Kingsling. Ah, c'est aujourd'hui ? Ah, parce que le match de la France, ça me semblait... Est-ce qu'il y a un match de l'équipe de France de football, l'équipe de hand de football, de l'équipe de volley, l'équipe de hand, de volley, de basket ? Je ne voyais pas du tout, en fait. Alors, j'ai pas... Putain, c'est dommage que les articles n'en parlent pas. Ouais, c'est aujourd'hui, c'est à quelle heure? C'est fou, pas un article dans la presse papier en tout cas. Hein. C'est dommage. Non, ça va, mon tapis de souris sans moins le café. Skyder qui se souvient que vendredi, effectivement, on a 22h. Ah ouais, mais ça va tout casser, ça. Attendez, alors il me faut des infos là-dessus. Ça a commencé hier, la compétition, me dit Ougatsa, mais c'est l'équipe de France, l'équipe de France formée par Amine, hein, c'est ça qui joue, c'est ça? Et c'est à 22h, c'est sur la chaîne d'Amine, sans doute. Vous me donnez des infos? C'est vachement intéressant. Nono me dit, je suis la seule à pas être hype par cet événement. Pourtant, c'est très suivi. Bah oui, mais tu sais, les médias traditionnels sont un peu en retard là-dessus. Zougoulou me dit, pourtant, c'est très suivi. Il y a eu plus d'1 million de spectateurs en simultané. C'était à quelle heure, ça? Il y a Wendy Parisienne qui dit, c'est fou, j'étais même pas au courant que ça avait commencé. Pas sûr que la communication ait été très forte là-dessus, mais moi, je passe quand même ma vie sur les réseaux et sur Twitch, et personne hier ne m'a parlé de ça. Ah, tu vois, Rimek dit, je trouve ça dommage, ça manque de com. On est en train de mettre le doigt sur quelque chose, là. Regarde, Arsenic qui est au courant d'habitude de tout. Moi non plus, je n'étais pas au courant. La com n'est pas folle. Poulidor, ok, on est en train de mettre le doigt sur un truc. Moi, je suis surpris. Hein. Personne ne m'en a parlé hier. J'ai quand même passé Roland-Garros avec des streamers. Hier, avec la SPA, avec plein de streamers aussi. On discutait avec Luthi, avec Trivia, avec Anaï notamment. J'étais avec Joe hier. Je recevais Elidia en fin de journée. Personne ne m'a parlé de ça. Hein, Frenchy dit, c'est quand même assez niche, je trouve, du foot en 7v7. Merci Vorose Denier, tu régales, merci pour le 33e mois. Merci beaucoup Kella, 279 pour le 4e mois. Merci Skydark37, vous régalez, merci pour le 10e mois. Ouais. Ouais, bah comme le dit Moulbit, qui est un des modérateurs de cette chaîne, et je vous remercie les modos d'être là, il y a eu beaucoup de com sur l'équipe qui se faisait, ça je l'ai vu comme tout le monde, mais pas même pas sur le programme de la compétition. Ah ouais. C'est pareil pour le club de pétanque de mon village, me dit Bob Cram, c'est un peu la même communication, quoi. Ouais, peut-être un petit problème de com. Comme le dit Poulidor, il y avait une hype avec l'annonce d'Amine, mais c'est vite retombé. Ok. C'était à quelle heure hier? Quelqu'un me dit 1 million en simultané, c'était à quelle heure? Vous voyez, on vient de mettre le doigt sur un truc. Hein. 116K pour Amine, Pépin Camille. Ouais, pour Amine, c'est pas si gros en fait, 116K. Hein. Ouais, mais Bengazimo dit 117 même. Pour Amine, c'est pas, c'est quand même un, c'est un goat, Amine quoi. Pour lui, c'est pas, c'est énorme, hein, mais c'est pas fou en fait. Ouais. Ouais, Nico Manga dit, je crois que Piqué a pas assez communiqué, peut-être qu'il a peur qu'on lui fasse des blagues sur son ex, moi je crois à ça. Ok. C'est énorme, 116K. Mais c'est, voilà. Mais ça va être, voilà, mais la France jouait pas, donc la France joue ce soir ça va être énorme. La France ce soir ça va être énorme, ok. Si on allait voir le compte d'Amine un peu, pour que ceux qui comprennent absolument rien de cette conversation aient des infos. Le compte Twitter d'Amine pour voir s'il a communiqué un peu là-dessus. Lui, c'est quand même un géant, hein, c'est fou ce qu'il fait. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir Twitter? Putain, je suis ban de Twitter, putain. J'arrive pas à ouvrir Twitter? Oh, il est long. Non, ça marche normalement. Amine, let's go. Ok. Je crois surtout que vous n'êtes pas concerné parce que si tu suis ceux qui sont de l'event, bien sûr qu'on avait les infos. Sergius. Depuis 2 jours, j'étais quand même avec vachement de streamers qui connaissent Twitch comme leur poche et personne ne m'a parlé de ça. Je pense que la hype est pas folle en fait. Désolé, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas directement concerné et qu'on joue pas au foot que on n'est pas au courant de ce qui se passe sur la planète, quoi. Là, j'ai un tweet. Attendez, je vous mets le compte d'Amine. Si on s'intéressait que à ce qui nous intéresse directement, quoi, on ne serait pas au courant de grand-chose. Hein. Ouais, je pense que ça va être beaucoup plus fort ce soir. Alors. Ok. Bah même Amine ne tweet pas beaucoup là-dessus. Hein. Mais il est en quel pays là? Ça se passe où? Ça se passe dans quel pays? Le jeu, il a l'air très loin de chez lui là. Ça se passe dans quel pays ce truc? Ah, c'est au Mexique. Mais Rico, ok. Il y avait un match Brésil, mais Ukraine. Quoi? Ukraine? Ok. Ok. Ils ont communiqué surtout sur les communes déjà intéressées de chaque streamer, mais c'est vrai que ça n'a pas trop été élargi pour faire venir de nouvelles personnes, je pense, dit Armask. Ouais, moi, je pense que manifestement, il y a quand même un petit truc de com, quoi.
Très bien, ici ça bouge pas.
Tenez, là j'ai un extrait, c'est le dernier tweet d'Amine là-dessus, c'est un extrait d'un match, je pense. Ben, c'est dommage parce que, en vrai, moi je trouve ça intéressant.
La famille Free Palestine tous les jours, je l'ai répété 3-4 fois pendant le live, vous savez très bien, ici ça bouge pas. Je crois pas que mon avis. Les gars, je le répète, il n'y aura aucun doute ni flou par rapport à ça. Et vous inquiétez pas, bientôt je vais faire quelque chose.
C'est marrant parce que Amine, c'est quand même un des rares gros streamers qui parle régulièrement de la Palestine. Et manifestement, même dans son chat, certains viennent sans arrêt lui dire hey, tu parles pas de la Palestine, tu parles pas de la Palestine. C'est quand même un des rares qui en parle. Et manifestement, il doit répondre en permanence à des gens qui lui disent qu'il n'en parle pas assez. Comme ici d'ailleurs. On en parle quasiment tous les jours. Je pense que je suis le seul streamer à en parler quasiment quotidiennement dans mes revues de presse de la situation au Proche-Orient. Mais toutes les 5 minutes, hein, on ne parle pas de la Palestine. Ne vous inquiétez pas, on surveille ce truc qui est un des trucs les plus graves qui se passe actuellement dans le monde. Mais manifestement, c'est la même chose sur le stream d'Amine, quoi.
C'est horrible ce qui se passe là-bas. Arrêtez. Je veux aucun message qui dit ouais, parlez pas de politique, parlez pas de machin. C'est pas de la politique, là, les gars. Il y a des gens qui sont en train de vivre une dinguerie dans leur vie. Il n'y a aucun rapport avec la politique.
Il a juste raison.
Ne parlez pas de politique. Et ne me dites pas, c'est pas le moment, je sais pas quoi. Il y a des gens qui sont en train de vivre un enfer. Il y a des gens qui sont en train de vivre un enfer.
Là, on parle. Après, Amine, il a raison. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut en parler et il est extrêmement clair sur le sujet. En même temps, est-ce que c'est le meilleur moment? On est sur du foot 7v7. Il y a un énorme logo McDo au milieu. Hein, moi, je comprends qu'il le dit pas là parce qu'il peut pas le dire. Mais il dit, les gars, on en parle sans arrêt sur ma chaîne parce que Amine, c'est le cas. Il dit, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le meilleur moment là, maintenant, là? Vous voyez ce que je veux dire? Il a envie de dire ça, quoi. Et il est poli, mais est-ce que c'est le moment idéal en vrai, alors qu'il en parle tous les jours? Peut-être pas là, peut-être pas avec le gros logo McDo, là. Hein, c'est un peu gênant, même.
On parle plus de politique, c'est pas de la politique, il n'y a aucun rapport avec la politique, là. La famille Free Palestine tous les jours, je l'ai répété 3-4 fois pendant le live.
Ok, mais tout, c'est ça, il a bien fait de poster cette vidéo, parce que ça dit plein de choses. Ah, c'est cool, il y a des femmes aussi dans les équipes. C'est des équipes 100% féminines ou c'est mixte? C'est bien si c'est mixte. Il y a un petit péno là. C'est cool. Est-ce qu'on a des images? Il n'a pas posté grand-chose hein, sur le de match. On regarde juste cette petite vidéo sur un extrait de match entre le Brésil et l'Ukraine. Hein,
ils ont même plus les comptes favorables, ça y est, c'est terminé. Même les comptes favorables, ils les ont plus.
C'est du 7-7, hein, c'est ça? 7v7.
Oh là là. Bravo, GG. GG, la talonnade, s'il vous plaît. Aïe. Les gars, il est trop fort. Ils ont même plus les comptes favorables, ça y est, c'est terminé. Même les comptes favorables, ils les ont plus. Oh là là.
Ah, c'est génial, ça commence 1v1 les matchs et les autres rentrent un par un pendant le match. Sergio, c'est ça? C'est génial. Quelqu'un me disait tout à l'heure que les règles étaient vraiment sympas et drôles. Ok, c'est intéressant en vrai. Écoutez, moi je trouve ça dommage que tout le monde a été hypé par les annonces, le clip d'annonce qui était incroyable. Mais c'est vrai que la communication sur l'événement qui commence, je l'ai raté moi. Manifestement, je ne suis pas le seul. Donc, bon, du coup, ce soir, match de la France, salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Quelle heure ça? Il va tout casser là, ce soir. C'est 22h sur la chaîne d'Amine, mais c'est impossible de streamer face à ça. Moi, je comptais faire un stream de jeux vidéo ce soir. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas streamer face à Amine je ne veux pas streamer. Je vais dormir. Hein, c'est 300K minimum. Et Yazen. Yazen, qu'est-ce que vous voulez que je stream? Si tu peux streamer après Zen, ça a du sens. Tu peux récupérer un peu des viewers de Zen. Le lundi, en général, tu fais ça, quoi. Mais si t'as Zen de 20h à 22h, en gros, et Amine à partir de 22h, tu streames pas. Tu streames pour l'audience? Non, je stream pour avoir de l'échange avec les gens. S'il n'y a personne, c'est moins intéressant. Kritchek, va demander aux streamers qui stream devant quelques viewers, tu vas voir comment c'est dur. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on fait ici. Moi, en fait, la matière, elle ne vient pas de moi, elle vient de vous. Elle vient de votre humeur, de votre humour, de vos colères, de vos sensibilités, de vos coups de gueule, de vos envies de partager des trucs. S'il n'y a personne, ça marche moins bien. Donc, c'est pas une histoire d'audience. C'est parce qu'en fait, Twitch, c'est génial quand il y a du monde, parce qu'on rigole, parce qu'on est plein. Voilà. Et on partage des trucs. Voilà. Va voir les petits streamers. Va voir comment justement ils ont ce problème de matière, en fait. C'est beaucoup plus dur de streamer devant 5 personnes que devant 5000. C'est beaucoup plus dur. Moi, j'ai c'est pour ça que je raide toujours. C'est pour ça que je raide toujours, moi. C'est parce qu'en fait, c'est waouh, mais c'est parce qu'en fait, la matière, la richesse, le rythme, il est dans l'audience. Et créer un rythme, créer une ambiance. Quand t'as 5 personnes, 15 personnes, waouh! C'est ça, c'est dur, ça. Gros respect. C'est pour ça qu'on raide tout le temps ici. C'est vrai, comme le dit Moulbid, j'avoue que ceux qui ont quelques spectateurs, mais pas actifs, c'est compliqué d'engager l'interaction. Parce que n'oublions pas qu'en gros, vous avez à peine un tiers moins des viewers qui participent au chat. Il y a plein de gens qui écoutent tranquillement en faisant autre chose. Voilà. Un cas ça change tout. Il y a c'est pas faux qui dit à partir de 1K, t'as un chat dynamique. Même avant, à partir de 300 viewers. Mais en gros, t'as un quart, un tiers qui participe. Donc en gros, si t'as 15 viewers, tu vas avoir 3 gars qui parlent. Moi, j'ai vu, tous les soirs, je regarde des streams, tous les soirs, notamment avec des streams à quelques viewers comme ça. Je vois hein, des streams de qualité, mais en fait, qui sont pas aidés parce qu'en fait, voilà, dans le chat, il se passe pas grand chose. Parfois, tu as le même mec qui écrit 15 messages quoi, pendant une demi-heure. 15 messages différents. Merci à lui. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais à partir de 100, moi, je pense qu'à partir de 100 viewers, déjà, même 50, il commence à se passer des trucs sympas, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut raid, d'ailleurs. Et c'est pour ça que tous les gros streamers devraient raid systématiquement, d'ailleurs. Parce qu'ils pour aider les autres à démarrer, quoi. Ouais. Pastradan, merci pour le 5e mois. Rainbow86 pour le 23e mois. Koruto pour le 2e mois. Kingrow971, vous n'avez pas vu, pardon, pour le Prime. Kela279 pour le 4e mois. Et encore merci à vos redéniers. Et puis Red, ça crée des liens entre petits et gros streamers. Alors, j'aime pas petits et gros streamers. Oui, c'est la taille des. Mais oui, oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Pour moi, c'est vraiment un outil essentiel. Ça devrait être automatique lors de la fin d'un stream qu'un raid soit lancé. Automatique, non. Il faut que le streamer, la streameuse puisse choisir la destination. Parce que il faut que ce soit un peu en cohérence par rapport à ton propre contenu, quoi. Mais donc pas automatique. Il faut que ça reste. C'est comme le vote qui. Certains disent que le vote doit être obligatoire. Je dis non. Le vote, il faut avoir envie de voter. Hein, il faut avoir envie de se déplacer. Il faut que ça reste un effort. Et il faut qu'aussi le spectacle de la politique nous donne envie d'aller voter. Si c'est obligatoire, les politiques vont être encore moins motivés pour faire du débat politique quelque chose d'intéressant, quoi. Moi, je suis contre le vote obligatoire pour ces raisons-là. Bah, c'est pareil, le raid ne doit pas être automatique, en fait. Non. Mais tu te rappelles de ton nombre de viewers à ton premier stream, Samuel? Ouais, 10 000, dit Remake. Mais moi, j'ai eu une chance inouïe. Mon premier stream, c'est 10 000 viewers, moi. C'est parce que on était en pleine crise sanitaire, parce que Étoile m'avait pris sous son aile, parce que j'avais exploré Twitch pendant 9 mois avant de me lancer. Parce qu'au début, j'étais là juste pour me promener, que j'avais été invité aux The Event, parce que Ponce m'avait invité sur sa chaîne, Kedwad m'avait invité sur sa chaîne. Avant même de lancer mon premier live, je devais avoir, je sais pas, 30 ou 40 000 followers. Grâce à tout ça, grâce à cet alignement de planète. Mon premier stream, c'était 10 000 viewers. Donc moi, j'ai jamais connu ça, en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est parce que j'ai conscience de cette chance aussi que je raid, en fait, tout le temps. Parce que tout le monde n'a pas cette chance. Cet alignement de planète de fou que j'ai eu au début. Donc, quand je vois des contenus de qualité comme ça, où il y a 15 viewers, alors qu'en fait, ça mérite des milliers, et il y en a plein, et bah, du coup, je me dis que le raid s'impose, quoi. Ouais. Petit, gros streamer, comme le dit Novaxis, c'est pas la taille qui compte, je suis d'accord. Signaté, merci pour le 14e mois. Merci Lambi pour le soutien. Et ça juste dit, après un raid, t'envoies un public pas concerné chez quelqu'un, comme faire la première partie d'un concert, c'est pas ton public en soi, c'est dur. Non, pas quand t'envoies cette communauté là. Pas quand on envoie la communauté qu'on a sur cette chaîne, qui est juste, vous êtes juste incroyable. Et moi je vous regarde parce que je vous suis, après je vous surveille. Je regarde comment vous vous comportez après dans le chat. Et vous êtes formidable. Et vous êtes formidable. Et vous êtes top. Et vous êtes super, vous êtes pas agressif, vous êtes super apaisant. En général, souvent le streamer ou la streameuse panique un petit peu, ça arrive. En mode waouh, wow, c'est too much, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, vous êtes là, vas-y, dis-nous ce que tu fais, ça va bien se passer. Donc, non, pas avec cette commu, tout ça fonctionne super bien, quoi. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Sam, dis-moi un chiffre entre 1 et 10, si c'est le bon, je me sub. je le ferai pas. Abonne-toi que si t'as envie et seulement si tu peux. C'est la seule condition. Non, c'est pas vrai ça. Udor, je vais ton argument, je l'entends beaucoup. Et c'est pas toi qui le porte, c'est un argument que j'ai entendu chez des gros streamers. Et il est pas bon cet argument. Il y a Udor qui dit, après les raids, c'est une petite prise de risque. Parce que si tu raids quelqu'un qui, Fraxou, j'arrive pour te remercier, qui aura des problématiques, ça peut se retourner contre le gros streamer. Et inversement, envoyer 4 viewers d'un coup à un streamer qui en a 2 de moyenne, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Udor, je vais être très radical sur ces deux arguments-là. Et après, on commence la revue de presse. C'est faux. Ces deux arguments sont faux. Ça, c'est des arguments que j'ai entendus dans la bouche de certains gros streamers. En mode, ah non, bah alors moi, je raide pas parce que tu comprends. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. La personne peut avoir des problématiques. Et ça peut se retourner contre moi. Et ma chaîne pourrait se faire ban. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. Ou alors, tu sais, envoyer des milliers de viewers sur une chaîne où il y en a 2 ou 3, en fait, ça peut être très, très dur à gérer et tout. je raid tous les jours depuis 4 ans. Tous mes streams. Je n'ai jamais eu un propos problématique. C'est déjà arrivé. Oui, bien sûr, bah oui. Sur les milliers de raids quotidiens dans le monde, forcément, ça doit arriver. Mais moi, je raid tous les jours depuis 4 ans. Enfin, tous les streams, parce que parfois, il y a des jours où je ne stream pas. Jamais j'ai eu un comportement problématique. Si, une fois, j'ai eu deux fois, un jour, une meuf que j'ai raid, qui n'aimait pas ce que je faisais, ça, je ne savais pas, qui était en mode super, pas gêné, mais un peu ironique, en disant « Ah, Samuel Etienne, bon, je me serais bien passé de ce raid. Waouh !» Ok, bon, ben, si j'avais su, ok. Une fois, mais là, c'était pas problématique. C'était problématique pour moi, pour l'ego. Je me suis dit, ah, ok, bon, tout le monde était un peu gêné, y compris mes viewers, quoi. C'était gênant. Donc, mais c'était pas problématique, c'était juste gênant pour moi, quoi, et pour ma commu. Donc, je pense que je ne vais pas raid de nouveau cette personne, puisque manifestement, elle était waouh. Et une autre fois où la personne était en mode. Oui, j'ai vu, il y avait, alors que pour le coup, elle avait vraiment besoin d'un petit coup de main. J'ai vu, c'est bon, on a été raid, on va pas non plus en faire un fromage. Bon après, c'est des réactions, mais c'est pas problématique. C'est pas problématique, c'est juste des réactions, des gens qui n'avaient pas envie d'être raid, quoi. Mais oui, c'est pas problématique. Ma chaîne est absolument pas impactée, je suis pas impacté. Donc jamais de. Et j'ai jamais vu des personnes recevoir un raid. Et ne pas savoir le gérer. Quoi. Alors parfois il y a du stress, il y a de l'émotion, parfois il y a même une petite larme. Mais c'est beau et c'est magnifique. Et quand je reviens quelques jours après sur la chaîne, les stats elles ont changé. Hein. C'est plus 4-5 viewers, c'est 15-20 viewers ou ça peut être même 50 viewers et un gros raid. Pardon, quand c'est bien accueilli. Quand la personne en profite vraiment pour mettre son travail en avant, ce qui est souvent le cas, ben pardon, mais ça peut changer la vie d'une chaîne, quoi. Donc je reviens sur ces deux arguments que je n'ai entendus que dans la bouche de certains gros streamers. Moi, je ne raid pas parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ça se choisit un raid. Hein. Moi, je regarde un peu où je vais d'abord. Hein. C'est pour ça que je prends mon temps à chaque fois. Et un petit streamer, c'est un peu méprisant ça. Un petit streamer, il va pas savoir gérer le gros raid. Non, ça c'est d'autres raisons. Voilà. Bon, peut-être que je peux me tromper. Mais mon expérience personnelle, puisque j'ai le droit de parler de ça quand même, mon expérience personnelle, c'est qu'en 4 ans de raid quasi quotidien, French Yu-Gi-Oh! Nous dit, une fois tu as raid un ami à moi qui avait 60-80 viewers, tu avais illuminé sa semaine, on ne se rend pas compte. Mon expérience personnelle, c'est qu'en 4 ans, il y a eu zéro problème. Quoi. Donc, je pense qu'il faut le faire. À mon titre personnel. Bon, donc on arrête de parler de ça. Et on va remercier Coréal pour le 11e mois, Jérémy Delcou pour le Prime, Basement Arena. Ça me parle ça, Basement Arena. Mais oui, merci les amis. Ok, très bien, j'ai la ref. Ok, on parle des Valkyrie Games, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça me parle de ça, je crois. Hein, merci. Ifizei, merci pour le soutien. Valkyrie Games, dont on me parle souvent, dont les gens qui ont vraiment beaucoup aimé cette expérience. Et on y va. Hein. Revue de presse, quelle heure il est? Il est, ok, 32 minutes d'introduction, c'est la règle. Et je vous abandonne vers midi 30. Parce que je vais emmener mon petit dernier à l'école, qui est en petite section, et il kiffe trop quand je l'emmène. Donc, je mets un petit réveil. Du coup, on fera pas de pause. On est parti pour 2 heures de revue de presse parce qu'il aime trop quand je l'emmène. Midi 30. Je mets un petit réveil. Voilà. Hop. Il kiffe. Un petit solal. C'est lourd l'école pour les petits. Hein. C'est beaucoup de stress. Beaucoup, on ne se rend pas compte. Hein. Voilà. Donc, un petit te dit ah là là, j'aimerais bien que vous m'emmeniez un peu à l'école, venez me chercher et tout parce que le papa et maman travaillent un petit peu trop. Il faut entendre ces messages-là, quoi, c'est important. On y go ? Ouais, bientôt les vacances. J'arrête pas de le dire aux petits. Et puis moi aussi, je le dis. Merci Eval pour le Prime. Requin Joufflu, tu régales. Merci pour le soutien. Bon, un petit sommaire, ok ? Pour ceux qui n'ont pas 2 heures à nous consacrer, 5 minutes, 5 minutes de résumé de l'actu. Qu'est-ce qu'elle a eu des journaux ? La fin de vie. Bon, ici, on parle de tous les sujets, y compris les plus lourds. Le Proche-Orient, quasiment tous les jours. L'Ukraine, on n'oublie pas qu'il y a la guerre. Et la fin de vie, le débat sur la fin de vie en France, le débat sur l'aide à mourir, le débat sur l'euthanasie. Voilà. Chaque mot ne renvoie pas tout à fait à la même chose, mais c'est le même débat. Et la loi, a priori, va changer. A priori, parce que les députés, nous dit Libération, en sa une ce matin, examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi attendu, écrit Libé, sur l'aide à mourir, qui perturbe les clivages politiques traditionnels. Vous savez que je mets beaucoup de jaune fluo sur mes articles, mais quand une est belle, quand elle est forte comme ça, je ne touche pas, hein, pas de vote, pas de fluo là-dessus. Voyez, cette main, manifestement, d'un patient, d'un malade à l'hôpital, vous voyez, qui est tenue par deux autres mains, peut-être d'un soignant, peut-être d'un proche, voilà. Et c'est un débat qui est essentiel. Kritchek, beaucoup de marronniers, tu parles d'un marronnier, là ? Kritchek, le débat sur la fin de vie en France, tu parles d'un marronnier, là ? Non, tu te trompes, là. Le débat sur la fin de vie en France, ça fait des années que les Français, dans une immense majorité, demandent sondage après sondage que la loi sur la fin de vie en France, pour que les gens qui souffrent parfois des douleurs atroces, avec des maladies incurables, puissent bénéficier d'une aide à mourir, hein, un truc qui n'est pas en place dans notre pays actuellement, contrairement à d'autres. Du coup, il y a des Français qui partent à l'étranger pour pouvoir mettre... Tu parles d'un marronnier. Un marronnier, c'est une info qui revient sans arrêt, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, genre le prix de l'immobilier, toujours un peu toujours les mêmes choses, ou les foires au vin, tout ça. Un marronnier ? Kritchek, je suis d'accord, mais le débat revient souvent sur le tapis. Non, c'est pas ça, un marronnier. Va voir. Un marronnier, c'est pas ça. On en parle souvent parce qu'en fait, les Français sont en attente de ça. Mais cette loi-là, c'est la première fois qu'elle arrive devant le Parlement français. Donc, un marronnier, c'est un truc qui revient sans arrêt et toujours la même actu. Un marronnier, c'est ça. C'est par exemple, c'est la rentrée scolaire, marronnier. C'est, il fait froid l'hiver, marronnier. Le prix de l'immobilier de votre ville, marronnier. Voilà, c'est ça un marronnier. Fuzouz en donne une définition. En journalisme, un marronnier est un article de presse ou un reportage d'information de faible importance qui sert à meubler une période d'actualité creuse. Le marronnier est ordinairement consacré, elle est très belle ta définition, elle est parfaite, à un événement récurrent et prévisible avec des sujets souvent simplistes, parfois mièvres. Fuzouz, tu régales. Sur le débat sur la fin de vie, il n'y a pas un aspect qui renvoie au marronnier. Désolé, pour le coup, c'était pas le bon mot. Non, là, je me fâche parce qu'en fait, il faut être précis sur les mots. Donc, on va parler de ce débat vital, hein, ce débat essentiel. Voilà. Y a un texte qui arrive pour faire évoluer la loi sur cette question. Est-ce qu'il va être voté ? Est-ce qu'il va être voté ? Est-ce qu'il va être modifié ? Voilà. Les Français, les Françaises qui souffrent d'une maladie incurable, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer ? C'est très important. Bon, on en a parlé ces derniers mois de temps en temps. Il y a eu des réflexions, il y a eu des comités de réflexion là-dessus. Maintenant, le texte, il arrive à l'Assemblée. C'est ça qui est important. Merci Eval pour le prêt. Les questions qui fâchent, en une de la croix, sur l'Union européenne. Alors, moi, les élections européennes, je n'en ai pas trop parlé ces dernières semaines, parce que je trouvais que le débat n'était pas passionnant, était plus sur les luttes partisanes, les luttes de partis, les luttes de tête de liste, plutôt que sur le fond, sur pour ou contre l'Europe, quelle Europe, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Et de temps en temps, je trouve un article justement où on va sur le fond et pas juste sur le débat politique. Frexit, dit Nicolas 18. Alors si tu souhaites le Frexit, ça va être compliqué pour toi, parce qu'il n'y a quasiment plus aucun parti qui souhaite le Frexit. Même le Rassemblement National qui voulait sortir de l'Union Européenne, qui voulait même sortir de l'euro à un moment, ils ne veulent plus maintenant. Peut-être parce qu'ils veulent choper un maximum d'électeurs pour arriver enfin au pouvoir. Moi, je dis les pauvres partisans du Frexit, hein, qui veulent sortir de la France de l'Union Européenne, mais pour qui vous allez voter ? Il n'y a plus personne qui... Il n'y a plus aucun parti. Même le Rassemblement National ne propose plus le Frexit. Putain, vous allez voter pour qui, quoi ? Peut-être que Zemmour propose encore le Frexit, je ne suis même pas sûr. Ouais. Je suis très embêté pour les gens qui veulent le Frexit. Vous pouvez peut-être trouver des... Il doit rester des petits partis, peut-être encore. Peut-être. Mais c'est frustrant quand même. Hein. Du coup, des gouvernements, on se moque beaucoup du RN parce qu'ils ont beaucoup changé de position sur l'Union européenne. Donc là, il y a un article de fond, justement, dans la perspective des élections européennes, pendant deux semaines, La Croix décrypte 10 reproches fréquemment formulés à l'encontre de l'UE. La Croix, c'est un journal qui aime faire des feuilletons comme ça pour aller au fond. La Croix, c'est un journal que j'aime parce que justement, c'est un journal qui se penche pas sur l'écume de l'actualité, mais sur le fond des choses. Là, par exemple, c'est, vous voyez, la question qui fâche, 1 sur 10, vous allez avoir 10 gros papiers dans les 10 prochains jours sur les questions qui fâchent par rapport à l'Europe. C'est vachement intéressant, c'est une super démarche. Là, par exemple, est-ce que l'Union européenne coûte trop cher à la France, budgétairement, sur un plan financier ? Hyper intéressant, on se penchera sur le sujet. À la une du Parisien, également les élections européennes, l'Europe face à la poussée populiste. Je vous parlais du RN, hein, qui a beaucoup changé sur la question européenne d'avis ces derniers temps, puisque à une époque, il voulait sortir de l'euro, il voulait sortir de l'Union européenne, le Frexit, mais plus du tout maintenant, plus du tout. Et en gros, quand on leur demande, mais attendez, vous avez quand même radicalement changé. Et ils répondent, bah, il n'y a pas que les idiots. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc, nous, on a changé d'avis. Bon. Alors, n'empêche que lors de ces élections européennes, il va y avoir, dit les sondages, une vraie poussée populiste, dit le Parisien, de la droite la plus à droite, de l'extrême droite, la droite populiste, après vous l'appelez comme vous voulez, hein, parce qu'elle a plein de formes, elle est protéiforme au niveau européen. Donc le Parisien a résumé ça en disant l'Europe face à la poussée populiste. La droite radicale, bah, tu vois, ils disent droite radicale par exemple, est promise à une nette progression dans les sondages, notamment en France, hein, vous savez, où le RN est largement en tête des intentions de vote. Et vous avez notamment Thierry Breton, le commissaire européen, que ça énerve. L'extrême droite va-t-elle tout chambouler ? Oui ! Ouais, on est dans le sommaire, Kempachi, t'inquiète. Les partis populistes devraient faire une percée partout parmi les 27, mais ils sont divisés au Parlement européen. Et en fait, ce qu'on apprend dans l'article du Parisien, c'est que l'extrême droite ou la droite populiste, la droite la plus à droite au niveau européen, alors j'emploie différents termes parce que ces partis ne se ressemblent pas, ne sont pas d'accord entre eux. Déjà, j'apprends que cette extrême droite au niveau européen, au niveau du Parlement, elle est divisée en deux grands groupes qui ne s'entendent pas entre eux. Et au sein des groupes, ils ne s'entendent pas tellement très bien non plus entre eux. Donc ce que dit le papier, c'est que même s'ils ont un très bon résultat aux élections européennes, ils ne devraient sans doute pas former de groupe commun et pas trop peser finalement sur le fonctionnement du Parlement européen. Voilà. Salut Animato, bienvenue, première fois sur le live. Et la fin de l'article est vachement intéressante, je vous la lirai tout à l'heure, là on est dans le sommaire. J'adore cette phrase, je l'ai pas comprise tout de suite. Par nature, il est difficile de créer une internationale des nationalistes. Ah bah oui, c'est drôle, c'est un petit jeu avec les mots. Comment tu regroupes au niveau européen des gens qui globalement disent bah non, l'Europe ça pue, et en fait le bon échelon c'est le niveau national. Bah ouais. Comment tu les regroupes après ces gars-là ? Parce qu'en gros, l'Italien, il va dire à l'Allemand, OK, Italy first. Et l'Allemand, il va dire, bah non, Allemand first. Ah bah non, l'Italien, il va dire, bah non, Italy first. Bah l'Allemand, il va dire, bah non, Allemand first. Et le Français, il arrive, bah non, France first. Alors, tant que chacun reste dans son pays, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de contradicteurs. Mais quand ils se retrouvent au niveau européen, puisqu'ils sont élus au niveau européen, les mecs se retrouvent et du coup, ils ne sont pas d'accord. C'est pas con. C'est pas con. Les États-Unis, ils font bien ça, me dit Xaridou. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand tu vois comment ça se passe aux États-Unis, Dieu nous préserve de vivre ce que vivent les États-Unis à bien des aspects. Ouais, puis c'est pas la même histoire. Hein. Même si c'est un pays avec plein d'États, parce que c'est une fédération, c'est que ça reste un pays, hein, depuis la création des États-Unis d'Amérique. On n'en est pas à ce niveau d'intégration, quand même, en Europe. Le sprint final, c'est le début de la campagne électorale. Voilà, ce lundi à 0h, donc à la fin du match de foot d'Amine, hein, en gros, débute en France la campagne officielle des élections européennes qui s'achèvera le 7 juin à minuit. Voilà. J'espère que Jean Massier va faire plein de choses là-dessus. Ça va, Jean ? Vous avez des nouvelles ? Il restream bien, là. Il parle des élections européennes, tout ça. Merci, Lisa Flows. J'espère que je prononce bien. Merci pour le Prime. Merci, Aivai, pour le Prime. Vous avez des nouvelles de Jean, mon Jean ? Oui, Baxi, toujours, bah heureusement, ouais. Mais là, on est sur une séquence poétique très forte. Mais à part Baxi, ah ouais, que Baxi, ok. Dommage. Quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, Jean, qui fait un super travail. Jean Massier, allez suivre la chaîne de Jean. M-A-2-S-I-E-T, Jean Massier, le meilleur analyste de la vie politique en France. Il a une super chaîne, ouais. Il a un peu levé le pied au niveau du travail, là. Et donc, voilà, il fait essentiellement Backseat, sa super émission du jeudi. Ok. Il fait peut-être un truc avec Arte à 18h. Ok, super. Top. Merci, le Nono TV à l'instant. Merci. Donc, on lira ce papier sur les élections européennes. Et puis, alors, ça, je vous en ai déjà parlé, mais ce n'est pas un marronnier, puisqu'on a donné la définition du marronnier tout à l'heure. Oula. Attention, ça dénonce le gauchiste, là. Non, vous avez supprimé le message. Oh, c'est dommage. C'est toujours sympa de voir quelqu'un qui arrive sur ce stream et qui dit « Oh, encore un gauchiste !» C'est tout. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on dénonce le gauchisme. Toutes les opinions sont autorisées ici. Quand il y a un peu de matière, quoi. Quand c'est un peu, y a un peu des arguments, des trucs, mais comme je dis souvent, tu as le droit de venir ici et de voter RN. Hein. Aucun problème. Mais pas juste en arrivant dans le chat en disant, comme c'était le cas pendant la présidentielle, il y a des gars qui arrivaient qui disaient « Ouais, vive Zemmour !» Je dis « Bah, t'as le droit de le dire ici, mais ça n'a aucun intérêt. Tu vas convaincre personne en disant « Vive Zemmour !» On sait qu'il existe. Éric Zemmour, ancien journaliste, je l'ai côtoyé, moi, quand il était journaliste, mais on s'en fout. Dis-nous, moi, je vote Zemmour parce que je pense que, voilà, sur tel ou tel ou tel point, il a raison et je vous dis pourquoi. Ça nous intéresse. Parce que là, il peut y avoir débat. Mais là, c'est pareil. Encore un gauchiste, bon ben, t'as le droit de penser que certaines figures des médias ou certains streamers ont le cœur trop à gauche, mais il faut étayer, il faut argumenter. Encore un gauchiste, ça n'a aucun intérêt. C'est pas tellement le fond de la pensée qu'on supprime, c'est la façon de s'exprimer. Alors ça, par exemple, j'en ai déjà parlé, mais là, bon, bah, c'est confirmé, hein, puisqu'on on avait déjà des fuites, mais maintenant c'est sûr. Nouveau tour de vis sur l'assurance chômage. C'est la troisième modification du régime de l'assurance chômage, la manière dont sont indemnisés les demandeurs d'emploi en France, hein, par le pouvoir actuel. Voilà. Et donc ça durcit encore. Il faut travailler plus longtemps pour avoir les droits. Les indemnisations sont moins longues. Donc on a beaucoup parlé notamment des critiques de cette réforme. Et là, ben, c'est l'annonce, ça va être fait. Voilà. Et on se penchera du coup sur le détail. Alors ceux qui suivent cette revue de presse savent déjà ce que je vais dire, puisqu'on a déjà parlé, mais voilà. Vive Krasuki, j'ai la ref d'un coup, mais tu dois être comme moi, tu dois être une personne âgée. Jules César, en parlant de personne âgée, vient de prendre un prime, merci à toi. Infobésité, joli. Infobésité, joli. Néologisme, qui vient du Canada, a priori, du Québec même précisément. C'est le fait d'être submergé d'informations. La surinformation, exactement, French Yu-Gi-Oh. Mais du coup, je trouve intéressant ce concept d'infobésité. C'est-à-dire qu'on est à la fois assailli d'infos, trop, de partout, téléphone, tablette, notifications, sites d'infos, Twitter, enfin, j'en passais des meilleurs, les chaînes d'infos et tout. Et alors, ça donne le tournis, on se dit, waouh, c'est génial, parce que du coup, je suis informé comme jamais, mais il y a trop d'infos. Et c'est pas bon, en fait, parce qu'en fait, trop d'infos tue l'info, et tu finis par tout mettre sur le même plan, tu finis par être un peu noyé, et finalement, c'est pas topissime. Comme le dit Acme Girl, c'est le problème, je trouve, de l'info aujourd'hui, à force, on ne prête plus attention à rien. Du coup, ça rend obèse derrière. Non, moi, c'est le jeu vidéo qui me fait grossir un petit peu, plutôt que l'info, le coup, parce que je reste beaucoup assis les fesses sur ma chaise à essayer de faire des kills que je rate en général. C'est plutôt le jeu vidéo, moi. Mais par contre, moi, qui suis un gros consommateur d'infos, eh ben, j'ai mis en place toute une stratégie, je vous en parlerai, pour ne pas être en overdose, quoi, d'infos, quoi. Donc moi, j'ai zéro notification, par exemple. Zéro notification sur mon téléphone. Zéro notif de rien. Je ne consomme pas les chaînes d'infos en continu. Je ne m'informe pas sur Internet, sur Twitter. J'y vais parfois pour y trouver des infos ou pour communiquer, mais je ne m'informe pas sur Twitter en scrollant comme ça. Voilà. Voilà, j'ai des sources d'infos qui sont toutes simples, toutes basiques, qui est de lire les journaux, d'où cette revue de presse, parce qu'à des moments que je choisis, ça ne s'impose pas à moi sur le téléphone, paf, un truc qui pop, en disant waouh, parce que c'est épuisant ça en fait. Voilà. Donc voilà, moi j'ai mis en place des trucs justement pour éviter cette infobésité, un truc qui donne le tournis et qui fatigue le cerveau en fait. Voilà. Ouais. On en parlera. Puisqu'on parle des réseaux, bon, on en parle depuis quelques jours, mais ça semble officiel. Thibaut InShape serait devenu le YouTuber numéro 1 en France. Il serait passé devant Squeezie ce week-end. Voilà. Si je comprends bien, en nombre d'abonnés, voilà, on est à combien ? 18,9 millions d'abonnés, Thibaut InShape. Et bon, on a un article dans le Parisien, je disais dans le Figaro tout à l'heure, c'est dans le Parisien. Bah, Squeezie, il y a les coachs qui disent, bah alors Squeezie, bah, à ton avis. Si Thibaut InShape devient numéro 1, a priori Squeezie est numéro 2. Hein. Donc je vois que ça provoque beaucoup de réactions dans le chat. Alors, le Parisien nous fait un petit article assez propre sur comment, d'abord, il a réussi à prendre cette première place grâce aux shorts, comme le dit Mathieu, exactement. Le Parisien l'explique très bien, une petite vidéo. Et puis, quel est son contenu et le fait que, il a, comme le dit pudiquement le Parisien... il a un profil moins consensuel que celui de son rival, hein, Squeezie, avec un certain nombre de polémiques ces dernières années. On se penchera là-dessus. Petit article, mais assez complet. Et puis, on finira par du sport. Je sais qu'il y a des amateurs de Formule 1 dans le chat, et notamment du côté des modos. Mais j'ai l'impression que MMG n'est pas là aujourd'hui. Salut les modos, salut Anonyme 31. Comment ça va, Etienne LB, French Yu-Gi-Oh, Ephaisto 78, Mon Julo. Il faut qu'on se parle de son tous les deux. Moulbit, Original Pimous, Pépin Camille, Sarah Molly, Sugar Frog, Mathieu de la chaîne VOD Samuel. Et donc, il n'y a pas MMG qui est un grand fan de Formule 1. Et donc, on parlera de Nadal, parce que moi, ça me hype totalement. Est-ce que Nadal va pouvoir passer son premier match, là, avec ce tirage au sort de fou, puisqu'il n'est pas tête de série. Il affronte le numéro 4 mondial, Zverev, alors que lui pointe à la 270e ou 280e place désormais Nadal, parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Beaucoup blessé ces derniers mois. Donc, c'est un match de fou. C'est aujourd'hui, hein, lundi. Voilà. 14h30, me dit-on dans le chat. Voilà. Moi, je serai en réunion, mais je vais regarder ça d'un petit œil quand même. Moi, je trouve ça complètement fou. Est-ce qu'il peut passer ce tour ? Est-ce qu'il peut aller loin dans ce tournoi ? Est-ce que c'est son dernier Roland-Garros ? On le pensait, et finalement, c'est pas sûr. Et puis, la une de l'équipe, elle n'est pas consacrée à Nadal. Elle est consacrée à Charles. Hein, Charles de Monaco, Charles Leclerc, puisqu'il est monégasque et pas français comme certains le disent parfois, et il a gagné pour la première fois le Grand Prix de Monaco. Bon, il gagne à domicile, c'était espéré depuis longtemps par la principauté. Je crois que le prince Albert a versé sa petite larme, il paraît. Voilà, le plus français des monégasques. Pas trop. Ah oui, on aime bien dire qu'il est français parce qu'on dit ah là là, on est fort. Oui, ben, il est monégasque. La une est belle, hein, Charles de Monaco. Ouais. C'est pas mal. Il prend des points en général aussi, dit Sugar Frog. Bah oui, je suis pas très fort en Formule 1, mais du coup, s'il a gagné, je pense qu'il a pris des points, effectivement. Vous voyez, pas très fort en F1, mais oui. Mais a priori, oui. Merci Dave McFly 82 pour le soutien, merci. Globalement, Monaco, c'est français. Non. Il rattrape Verstappen ? Bah oui, j'imagine. On va aller voir. Vous voulez qu'on aille voir le classement général ? Je ne l'ai même pas. Alors, l'équipe générale. 138e. Bon, Verstappen a quand même 31 points d'avance. Hein. Bon, je ne sais pas combien de grands prix il reste, mais il rattrape. C'est combien ? 30 points différents ? 169, 138. C'est serré ou pas ? Ou c'est pas serré 30 points ? Les spécialistes de F1, là. On n'est même pas au tiers du... C'est serré ? Ok. Ils sont au tiers de la saison, c'est très peu. Donc, c'est possible. C'est une course seulement ? Ah oui, ils donnent autant de points que ça ? Ah oui, c'est un peu comme Valorant, alors. Tu perds, tu gagnes, tu prends 30 points. Ok. Ok. 25 points à la win. Ok. Largement jouable. Vous pensez que Charles Leclerc peut être champion du monde cette année ? Mais qu'est-ce qu'il a vers sa peine avec sa voiture ? Marche plus ? Merci Loutage pour le problème. J'ai pas trop suivi la F1 là, ces derniers temps. Marche plus la voiture de Verstappen ? Merci Loutage pour le problème. Merci beaucoup. Ouais, j'avoue que c'est serré sans lettres, me dit Vanilla Ice. Oh, Vanilla Ice. his eyes, baby. Verstappen va revenir à terre, me dis-tu. Ok. Sombre actualité quand même aujourd'hui, dit Fanaos. Tu parles de la Formule 1 ? Tu n'aimes pas les Ferrari ? Tu n'aimes pas les Ferrari ? Voilà. En tout cas, voici pour le sommaire, les amis. Vous avez l'essentiel de l'actualité pour ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures. Laissez-moi voir un truc. Et on commence la revue de presse. On lit tous les articles qu'on vient d'évoquer. Là. Attendez. Tu regardes une info. Je serai en revue de presse demain matin aussi. Ouais, parce que vous êtes très nombreux à me parler de ce qui s'est passé à Rafah. Et comme ça s'est passé la nuit dernière, ça n'est pas dans les journaux que je lis ce matin, puisque les journaux, en format PDF, hein, ceux que je lis, vous lis le matin, ils doivent partir à l'imprimerie en gros dans la soirée, quoi. Autour de 22h pour faire très simple. Donc du coup, forcément, cette actualité, elle ne peut pas être dans les journaux papier, le print, ni PDF. En revanche, l'actu est sur leur site internet. Ici, nous sommes sur le site du Monde. Et comme vous m'avez alerté sur cette info, je vous la donne, vous avez raison. Là, je vais chercher une source qui est un peu carrée. Le Monde, guerre Israël-Hamas. Vous notez d'ailleurs que Le Monde parle bien d'une guerre. Hein, hein. L'armée israélienne continue son offensive à Rafah malgré la pression internationale. Le bombardement d'un camp de déplacés à Rafah dans la nuit de dimanche à lundi, donc il y a quelques heures, a causé au moins 40 morts. La source est selon le numéro inconnu qui m'appelle. Là, c'est fou, depuis quelques semaines, tout le monde m'appelle. Tout le monde a mon numéro, c'est incroyable. A causé au moins 40 morts selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Des flammes dans la nuit, des hurlements perçant l'obscurité, des corps carbonisés et démembrés, tirés d'un amas de décombres, y compris ceux d'enfants. Les images publiées dimanche 26 mai sur les réseaux sociaux par les Palestiniens de Rafah dépeignent des scènes d'horreur. Le camp de tente de Barkassat, situé dans cette ville du sud de la bande de Gaza, donc c'est un camp, a été bombardé par l'armée israélienne, causant des dizaines de victimes parmi la population de déplacés qui est installée. Longtemps épargné par les combats au sol, à défaut de frappes aériennes, Rafah est le théâtre depuis le 7 mai d'une offensive terrestre israélienne, nouvelle phase dans la guerre lancée par l'État hébreu en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre. L'ONG Médecins sans frontières, qui a reçu plus de 15 cadavres et de dizaines de blessés dans la clinique de fortune qu'elle gère à Rafah, s'est dite horrifiée par cet événement. Vous êtes nombreux dans le chat à dire que, à mettre en garde ceux qui iraient chercher sur les réseaux, notamment des infos. Attention aux images, vous allez tomber sur des images extrêmement violentes. Avertissement donné par Nuno124, par Benakin également, par le grand Youssef. Horrifié, se dit Médecins sans frontières, qui démontre cet événement une fois de plus qu'il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Cet atroce massacre perpétré par les forces d'occupation israéliennes est un défi à toutes les résolutions internationales, s'est indignée la présidence palestinienne, accusant Israël d'avoir délibérément visé ce centre de déplacés. Ces tirs se sont produits un peu plus de 48 heures après que la Cour internationale de justice eut ordonné à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire, décision qui n'a été suivie d'aucun effet. L'armée israélienne a assumé son bombardement au nom de la lutte contre le Hamas. La frappe a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international. C'est pas ce que dit l'article. Et sur la base de renseignements précis, indiquant que le Hamas utilisait la zone. L'état-major affirme que ces frappes visaient deux responsables du mouvement islamiste. Cet article du Monde est très bien parce qu'il nous permet aussi de... Non seulement il est très précis, mais il nous permet aussi de revenir sur le contexte. Le bain de sang survient alors que la pression internationale s'accroît sur Israël. Lundi 20 mai, 4 jours avant le jugement de la Cour internationale de justice, le procureur de la Cour pénale internationale avait requis des mandats d'arrêt contre des cadres du Hamas, mais aussi contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense. Mercredi, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège ont reconnu l'État de Palestine, la France toujours pas. C'était dans les journaux cette semaine. L'article est très complet. Alors, on y a accès parce que je suis abonné au Monde. Alors, si vous allez chercher cet article, vous n'aurez pas accès à cet article qui est très bien fait. Mais tout contenu de qualité a un prix. Il y a un gros travail journalistique derrière un article aussi bien fait. Donc, hélas, là, je vous en lis une partie. Mais vous n'aurez pas accès à cet article, sauf si vous êtes abonné au Monde. Mais il est très bien fait parce qu'il est très complet, quoi. Regardez comment il remonte et qu'il donne le cadre, il contextualise. C'est un article de Samuel Forêt, le correspondant à Jérusalem du Monde. Voilà. Bon, eh ben, merci de m'avoir signalé cette info. Tu as le droit de le montrer comme ça. Tout à fait, Récou. Ça s'appelle le droit à la citation, c'est le cas, c'est la revue de presse. Bon, c'est pas moi qui ai inventé la revue de presse, ça existe depuis des dizaines d'années en radio ou en télé. Une revue de presse, c'est aller citer des morceaux d'articles de différents journaux. Ça s'appelle le droit à la citation. Voilà. Ils sont même assez contents que... quand c'est bien mis en valeur, qu'on mette en avant comme ça le contenu des journaux, qui pour moi est la meilleure source d'information possible. Non seulement c'est toléré, mais c'est même souhaité. C'est un exercice qui est assez apprécié des journaux, en fait, les revues de presse, quand elles sont correctement faites, parce que justement, elles mettent en avant le contenu de qualité des journaux. Voilà. Ce qui est interdit, c'est de pomper le contenu d'un journal sans le citer. Vous avez des sites internet ou des comptes d'infos sur internet qui donnent des infos qui ne sont pas d'eux, sans citer la source ou en le citant assez discrètement. Voilà, donc ça s'appelle du pompage de contenu, ça. C'est de la monétisation et c'est du vol de contenu, en fait, qui est pourtant protégé, quoi. Donc ça, c'est autre chose. Et ce qu'on fait ici, évidemment, est différent, parce que c'est la revue de presse. Merci Honorito pour le Prime, merci Tikapi pour le Prime, merci Petrusius pour le 26e mois. Hop, on commence la revue de presse. Avant la revue de presse, vous dire qu'évidemment, demain, les journaux qui, dans leur version PDF print, ouais, t'as raison, il y a Wanir qui dit « Je me permets de faire la pub pour Le Monde, l'offre en ce moment, il y a une offre à 5,99€ par mois au lieu de 11,99€. » Attention, parce qu'il y a souvent des promos comme ça, et c'est très bien d'ailleurs, hein, mais souvent c'est le premier mois qui est gratuit ou un nombre de mois limité, et après vous passez au tarif normal, quoi. Voilà. Donc, mais en général, un abonnement à un journal, c'est à peu près 10-11€ par mois. Et coin de vache, tu peux attendre que je finisse ma phrase, s'il te plaît. Coin de vache qui n'est sûrement pas un habitué de sa chaîne, ça va se vérifier en un clic sur l'historique. Voilà, 18 messages, voilà, donc tu n'es pas là depuis très longtemps. C'est parce que ça fait 4 ans qu'on lit les journaux ici. Hein, ça fait 4 ans que je parle du Proche-Orient. Bien avant que... Que ça refasse la une des journaux, parce que pour moi, c'est un conflit oublié qu'on n'aurait pas dû oublier et on n'en serait pas là si on avait oublié ce conflit. Donc, coin de vache, avant de parler, coin de vache, c'est pour ça que je m'énerve, qui écrit « Ah ouais, genre rien à rajouter, c'est tout », tu vas être tapé mes 4 ans de replay. Donc, tu vas sur YouTube, tu as mes 4 ans de replay de revue de presse et tu vas voir qu'ici, le Proche-Orient en parle. Et tu reviens après. Bon courage. Ah ben non, tu peux pas parler comme ça, tu peux pas te débouler dans un chat comme ça, sur une chaîne que tu connais pas, et tu dis « Ah, c'est tout ». Ah non, il faut que tu tapes tous mes replays, chouchou. Après, tu reviens. Non, je suis désolé, mais... C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur Twitter ici. Hein. Vos mots ont de l'importance pour moi, et je vous lis, quoi. Donc vos mots ont du sens, donc faites attention à ce que vous dites, en fait. Parce que je peux pas laisser quelqu'un qui dit « Ah ben c'est tout, on s'arrête là ». Et laisser penser à ceux qui ne connaissent pas cette chaîne qu'on s'en fout du Proche-Orient et de ce qui se passe. Bah non. Donc je suis obligé de te reprendre de voler directement pour te dire qu'en fait, c'est pas carré. Donc faites attention à ce que vous dites. Ce que je dis est important, ce que vous dites est important. On n'est pas sur Twitter. Et donc je vous lis et je respecte ce que vous dites, mais du coup, quand vous dites quelque chose, il faut que ce soit un peu carré, vérifié. Voilà. Si tu ne connais pas la chaîne, si tu ne sais pas ce qu'on fait ici sur l'actualité sur le Proche-Orient, bah tu peux. Tu tournes 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, quoi. mon petit mail de boulot là. C'est un truc qui se fait, qui est plus compliqué que prévu. Ok. On continue. Bon, il reste combien de temps là? Parce qu'avant que j'emmène mon petit fils à l'école. Ok, on se dépêche. Dibraco, tu régales, merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Et j'espère que j'ai remercié tout à l'heure d'ailleurs. Fraxou, je ne suis pas sûr, Fraxou, pour les 10 abonnements à la commu. J'ai un doute. Fraxou, merci beaucoup. Oui, bah, Lucas, B4, merci pour le Prime. Vlad78 Killer, encore merci. Donc, ça y est, on y est. Ça fait des années qu'on en parle d'un changement de la loi. Merci Fraxou, j'avais oublié. Hein. D'un changement de la loi sur la question de la fin de vie, l'euthanasie, suicide assisté, en France. Voilà. Il y a le cadre de la loi actuelle qui encadre la fin de vie en France, c'est la loi Claeys-Leonetti. Et ça fait des années que des voix s'élèvent pour dire mais ça va pas en fait. C'est une loi qui prévoit des soins palliatifs pour les gens qui sont en fin de vie et qui souffrent. Mais en fait, ces soins palliatifs, ils sont très peu accessibles. Et il y a des gens qui souffrent et en fait, qui demandent autre chose, qui demandent une fin de vie dans la dignité. Et en France, ce n'est pas possible. Et donc, ou on reste avec sa douleur extrême pendant des années, ou on va à l'étranger bénéficier d'un suicide assisté dans les pays où c'est possible. La loi va changer, ça y est. Après des années de réflexion sur un sujet extrêmement sensible, la loi arrive au Parlement. Fin de vie, un devoir de... Dignité, titre Libération, ce matin, les députés examinent à partir de ce lundi le projet de loi attendu sur l'aide à mourir qui perturbe les clivages politiques traditionnels. Assemblée sur la fin de vie, un débat vital, c'est un très joli titre. Merci Gigi Le Poupe, tu régales. Les députés étudient à partir d'aujourd'hui le projet de loi attendu par l'opinion, parce que c'est l'opinion publique qui réclame ce texte depuis des années. Hein. Ça fait des années que les Français disent dans les sondages « Donnez-nous ce texte-là, donnez-nous cette évolution de la loi ». C'est le politique qui a été un peu frileux par rapport à ça. Parce qu'il y a des opposants à cette évolution. Du côté des religions notamment, mais pas seulement, du côté de la droite et de l'extrême droite aussi. Une partie en tout cas. Donc les députés examinent à partir d'aujourd'hui ce projet de loi, attendu par l'opinion et décrié par une partie de la droite. La réécriture en commission de l'un des 5 critères nécessaires à une aide à mourir risque d'être un premier point de tension dans les échanges. Le texte arrive, mais maintenant, est-ce qu'il va être voté? Est-ce qu'il va être voté? Le jour J est arrivé, écrit Libération. Ce lundi, les députés commencent à examiner en séance publique le projet de loi sur la fin de vie, porteur de la dépénalisation de l'aide à mourir, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, attendue de très longue date par l'opinion, mais décriée par une large partie de la droite conservatrice et extrême, aiguillonnée par les représentants des cultes, hein, du côté des religions monothéistes, que ce soit l'islam, que ce soit... La religion chrétienne, notamment, on n'est pas pour, hein, pour des raisons que vous connaissez peut-être si vous connaissez les religions. La vie est sacrée, personne n'a le droit de d'ôter la vie, etc. Et des soignants de soins palliatifs aussi, qui aimeraient qu'on développe plutôt les soins palliatifs en France, plutôt qu'on aille vers une aide à mourir. Jusqu'au 11 juin, date du vote solennel sur ce texte, merci Cabage pour le message à l'instant, les élus vont débattre des conditions, des modalités permettant à un malade, de quoi parlons-nous ? Un malade, de demander assistance pour mettre un terme définitif à ses souffrances. Un sujet éthiquement sensible qui augure d'âpres passes d'armes dans l'hémicycle, donc l'Assemblée, entre adversaires déclarés de cette rupture anthropologique et partisans d'un assouplissement des dispositions encadrant l'accès à l'aide à mourir. De l'avis de nombre d'élus de gauche et de la majorité présidentielle, plusieurs dispositions méritent d'être précisées ou assouplies. C'est vrai notamment des directives anticipées dans le processus de demande d'aide à mourir, de la nécessité pour un patient de réitérer sa volonté à mourir juste avant l'administration du produit létal ou de l'obligation de se l'auto-administrer s'il est physiquement apte à accomplir ce geste. Je passe très vite, mais c'est très compliqué parce que on parle de quelque chose apparemment simple. Doit-on procurer une assistance à mourir aux patients en phase terminale d'une maladie incurable qu'on ne sait pas soigner et qui fait souffrir la personne. Donc ça, c'est assez simple. Mais si on rentre dans le détail, qui doit administrer le produit létal, à quelles conditions, Est-ce qu'il faut que la personne soit en capacité au dernier moment de pouvoir encore dire oui? Mais parfois elle ne peut plus parler, parfois elle n'a même plus sa tête. Et en fait, quand on va dans le détail, et c'est ce qu'on comprend très bien dans les articles de presse sur ce sujet, quand on va dans le détail, en fait, cette question apparemment simple devient très difficile à régler dans sur tous ces petits points-là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps sur ce sujet et pas y aller de façon un peu simpliste. Ça va, Levneg? Encore quelqu'un qui ne connaît pas la chaîne? Super. Libé nous dit qu'il y a un point sur lequel le débat parlementaire va à coup sûr se cristalliser. La réécriture via un amendement PS est adoptée en commission de l'un des 5 critères exigés pour être autorisé à formuler une demande d'aide à mourir. Ça, c'est un point qui va être très débattu. La condition, à l'origine, il y avait un truc qui était la condition du pronostic vital engagé à court et moyen terme. Je viens de vous en reparler, d'ailleurs. Hein ? Il fallait, en gros, pour bénéficier d'une aide à mourir, que le pronostic vital à court ou moyen terme soit engagé. Okay ? Et ça a été remplacé dans le texte de la loi par celle d'affection en stade avancé ou terminal. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Supprimer le court moyen terme, très clairement, on n'est plus du tout dans la même loi, disent certains qui critiquent cette réécriture. Hein ? Avant, en gros, il fallait que le pronostic vital à court ou moyen terme soit engagé. Et là, maintenant, on parle juste d'une affection, d'une maladie en stade avancé ou terminal. Dénonçant la disparition d'un verrou, d'une sécurité essentielle du texte, comme le dit Original Pimous, moyen terme, ça ne voulait rien dire. Exactement. C'est exactement ce qu'explique Libération. Moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, moyen terme. Ça veut dire quoi, moyen terme? Scientifiquement, médicalement parlant, ça ne veut rien dire. Et donc, c'était un flou, comme le dit Cyril, c'est vague, qui était dénoncé par les gens qui ont réécrit un petit peu le texte. Merci Durexel encore. Hein. Merci Mike Abba, je n'avais pas vu. Merci Duspin. Les médias de Bolloré sont très forts. Grince, le député Modem Olivier Falourny, qui explique sur Europe 1 ou CNews, ces médias ont dit qu'on avait supprimé le critère de temporalité. C'est totalement faux, dit-il. On a seulement reformulé car il n'était pas opérationnel. De fait, difficile de définir exactement le moyen terme s'agissant d'une maladie grave. Ce sont des médecins même qui ont alerté, qui ont dit que même en cas de maladie incurable, impossible pour eux souvent d'établir le temps restant à vivre à la personne. Et donc, ceux qui ont réécrit la loi ont dit le moyen terme, ça n'a aucun sens. Ça va peut-être permettre à des équipes médicales de dire, écoutez, on sait pas quand vous allez mourir. C'est court, moyen terme ou un peu plus, on ne sait pas. Donc du coup, on va pas vous aider malgré vos douleurs en fait. Et donc concrètement, y avait plein de gens qui allaient être exclus en fait de cette loi, explique le texte. Beaucoup de malades dont le calvaire médiatisé a contribué à faire avancer la réflexion collective n'auraient pas satisfait à ce critère de temporalité. Pas en tout cas, par exemple Chantal Sébir, qui était atteinte d'une tumeur au visage, je crois. Ouais, le déformant le visage et occasionnant des souffrances insupportables, disait-elle. Hein, dont le pronostic vital était incertain. Donc voilà une femme qui souffrait énormément, disait-elle, mais les médecins ne pouvaient pas dire si elle allait mourir à court ou moyen terme. Donc elle n'aurait pas pu prétendre à cette loi, par exemple. En 2008, après que le tribunal administratif, la justice française, a refusé sa demande d'euthanasie, cette dame s'était suicidée, hein, pour ceux qui se rappellent de l'histoire. Le critère du moyen terme est discriminant à un autre égard, dit une neurologue. Dans le cas de Barison, ça c'est très intéressant aussi, vous allez voir que le sujet est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Dans le cas de maladies neurodégénératives incurables, si on attend que le pronostic vital des patients ne soit plus que de quelques mois pour leur demander la possibilité de leur donner l'aide à mourir, de demander l'aide à mourir, ils ne seront plus en capacité de le faire. Parce que dans le cas de maladies neurodégénératives, si on attend le dernier moment, hein, leur discernement et ou leur capacité d'expression serait trop altérée pour pouvoir réitérer leur volonté. Hein ? Pour le député Olivier Falourny, il convenait donc d'adopter une conduite plus opérationnelle. Parler de maladie en phase avancée ou terminale permet de se référer à un diagnostic clinique, hein, pas à un pronostic sur une durée de vie, très difficile à établir. Très compliqué sujet, dit Nachlisi, mais en fait tous les sujets sont compliqués. Les sujets d'actualité sont tous complexes. Et c'est les gens qui vous disent que c'est simple, en fait, qui essayent de vous induire en erreur. Quand quelqu'un vous dit sur un sujet d'actualité, c'est simple, je vais t'expliquer, c'est faux. Vous savez déjà qu'il va vous raconter une toute petite partie du sujet, la partie qui l'arrange. Quand quelqu'un, un ami, un politique, vous dit « Attendez, ce sujet-là, c'est simple, je vais t'expliquer, t'inquiète, c'est faux. » Tous les sujets sont complexes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir dessus et trouver des solutions. Mais quelqu'un qui vous dit par définition « Attendez, en fait, ce truc, c'est simple. » La phrase commence mal. Là, par exemple, c'est un sujet éminemment compliqué, qui peut sembler simple. En fait, il est compliqué. Mais il ne faut pas que le côté complexe empêche l'action, bien sûr. Hein. C'est juste qu'il faut prendre le temps pour réfléchir. Par souci d'aboutir, le député MoDem, donc M. Falorni, dont on parlait, réfléchit néanmoins à une écriture pour apaiser les députés perturbés par cette modification de critères. En réalité, dit-il, le terme maladie incurable, maladie qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne sait pas guérir, hein, c'est assez simple, renvoie implicitement au pronostic vital, car c'est sa définition même, dit-il. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Même si cela peut rassurer, on pourrait voter en séance un amendement associant pronostic vital à maladie grave et incurable. C'est redondant, ça revient un petit peu à dire que l'eau mouille, hein, mais parfois, il n'est pas inutile de rappeler les évidences. Moi, je pense qu'il a raison sur ce point, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut être redondant pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Bon, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Bon, là, ça se précise puisque le texte arrive au Parlement. Va-t-il être voté ? Quelle Trem Force me pose une très bonne question. Selon toi, quelles actions pourrait-on faire en Occident pour que la situation change en Palestine ? Le problème est que ce sujet, je l'aborde depuis des années sur cette chaîne. Vous comprenez que je ne peux pas répondre à cette question tous les jours parce que tous les jours, on me la pose. Alors qu'on l'a abordé déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et je ne peux pas, pour les viewers qui viennent régulièrement, répondre infiniment à des questions qu'on a déjà traitées. Sinon, en fait, ce stream, ce ne serait plus un stream d'actualité. On répondrait toujours tous les jours aux deux ou trois mêmes questions. Donc, je ne peux pas le faire. Mais on aura l'occasion de le refaire sur les prochains articles sur le Proche-Orient. Hein, vous m'excusez de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions sur l'actualité, surtout celles qu'on a déjà traitées dans le passé. Et sur lesquels on va revenir dans les prochains jours, sans doute dès demain. Mais je m'en excuse quand même. Les européennes, je n'en ai pas trop parlé jusqu'ici parce que je ne trouvais pas trop d'articles vraiment intéressants. Je trouvais que la campagne n'était pas sûrement, pas beaucoup sur le fond, mais plutôt sur la forme et sur la politique politicienne et les élections. Donc, mais là, justement, on commence à aller un petit peu sur le fond, alors que la campagne officielle va débuter. Merci, Tram Force Dieu. Merci de ton message. Les questions qui fâchent. Super série de dossiers qui arrivent dans la Croix. On reviendra sur l'euthanasie, bien sûr. Toutes les prochaines semaines, on va en parler, pas tous les jours, mais beaucoup. Mais là aussi, on en a déjà beaucoup parlé dans le passé. Donc, pour ceux qui estiment que c'est un peu court, je réponds la même chose que sur le Proche-Orient. La Croix qui nous propose, dans la perspective des élections européennes pendant 2 semaines, eh bien, des dossiers sur les 10 reproches les plus fréquemment formulés à l'encontre de l'UE. Bon, ça, c'est un feuilleton, je trouve ça passionnant parce que justement, on va sur le fond. La Croix qui vous dit « L'Europe, c'est sérieux, on ne va pas vous résumer ça en une page, on va faire plusieurs articles de plusieurs pages sur 10 jours sur les reproches les plus... » Merci, 67 Astro, à mon avis, tu te sous-estimes, Astro. À l'Europe. Je lis, vous allez comprendre. Pendant 2 semaines, La Croix analyse le fonctionnement et les grands choix de l'Union européenne. C'est intéressant. Aujourd'hui, le coût, la moula de l'UE... La France contribue davantage au budget européen qu'elle ne reçoit en retour. On donne plus d'argent à l'Europe qu'on reçoit. Et là, si on s'arrête là, ils vont dire « Ah, bah, c'est dégueulasse, c'est du bordel, pourquoi, comment ?» Bon, il faut aller peut-être un petit peu au-delà. Toutefois, écrit La Croix, les bénéfices de son appartenance à l'Union doivent s'envisager au-delà de cette approche purement comptable. Appartenir à un grand marché donne un pouvoir de négociation important qui bénéficie aux Français. D'autant que l'économie française, même si on voit toujours le verre à moitié vide, est quand même l'une des plus puissantes de l'Union européenne. Donc, c'est une de celles qui profite le plus d'un grand marché comme celui de l'Union européenne. Deuxième plus gros payeur derrière l'Allemagne, la France est en effet contributrice nette au budget de l'UE, c'est-à-dire tout simplement qu'elle paie plus qu'elle ne reçoit. Donc ça, c'est un truc tout bête. Quand tu le prends sur un plan comptable, certains partis le prennent comme ça en disant « bah vous voyez, il faut sortir de l'Europe, la preuve, on donne plus d'argent à l'Europe qu'on en reçoit ». Bon, si tu t'arrêtes là, forcément, c'est la conclusion que tu en tires. Et c'est la conclusion qu'en tirent certains politiques d'ailleurs, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Les chiffres du précédent budget de 2014 à 2020 sont extrêmement clairs. Voici les chiffres. Tu m'étonnes, il y a Romain qui dit « J'ai eu 18 ans l'an dernier, donc ça va être mon premier vote. » C'est vrai que ce n'est pas évident de rentrer dans ce monde de la politique. C'est très compliqué. être un citoyen éclairé, c'est-à-dire être en capacité d'aller dans un isoloir, mettre un bulletin de vote, en comprenant à peu près les enjeux sur tous les questions qui se posent à la vie de notre pays, pour ne s'arrêter qu'à notre pays, c'est énorme. C'est énorme. C'est énormément de travail, d'information. C'est chaud en vrai. C'est un peu notre devoir de nous informer pour être en capacité d'être un citoyen éclairé et de pouvoir décider en toute connaissance de cause qui sont les meilleurs représentants ou les moins mauvais, ce qui est pour moi la même chose, politique pour conduire les affaires du pays. Mais en vrai, c'est chaud. Et à moi, à chaque fois que je vais dans un isoloir, je suis en mode, pff, la vache, quel est le moins mauvais quoi, quel est le meilleur programme pour le pays pour, en vrai, c'est compliqué. C'est un travail qui n'est jamais terminé, en fait. Mais je ne dis pas que c'est simple, c'est très compliqué, en vrai. Mais il faut le faire. Donc, on donne plus à l'Europe, voici les chiffres. 140 milliards d'euros versés au budget de l'EE de 2014 à 2020, et on n'en a reçu que 96 milliards. Déficit net, 44 milliards d'euros à mettre en rapport toutefois avec la population, puisque le coût de l'UE par Français est de 95 euros par habitant et par an, alors qu'un Suédois va payer 161 euros et un Allemand 158 euros. Donc ramener la taille de notre population, c'est le coût est moindre que d'autres pays. Les soldes budgétaires opérationnels nationaux ne prennent pas en considération tous les avantages économiques. Ah ben justement, on va parler de la fatigue informationnelle. Sandwich cheveux, on va en parler tout à l'heure, justement. C'est très important que tu en parles. Les soldes budgétaires opérationnels nationaux ne prennent pas en considération tous les avantages économiques et non monétaires que les États membres tirent de leur appartenance à l'Union, notait le Parlement européen en 2020, rappelant que les économies des États membres tirent avantage de leur appartenance à l'Union, bien au-delà de ce que chacun verse à Bruxelles. Le premier avantage est d'abord l'accès à un marché unique de 23 millions d'entreprises et 450 millions d'habitants. C'est l'un des plus attractifs au monde. Et je vous rappelle que l'économie française est une des plus importantes de l'économie de l'Union européenne, donc forcément une de celles qu'on profite le plus. Celui-ci s'est considérablement développé grâce à la suppression des barrières douanières, à l'adoption de normes communes, à la régulation de la concurrence. Différentes études estiment qu'il aurait contribué à une augmentation de 50% du commerce de services et 100% du commerce de biens entre les États membres. La France, dont 52%, salut, tragique pépéroni, 52% des expressions de biens, des exportations de biens, se font avec le reste de l'UE, profite largement de cet avantage. Il ne faut pas oublier que nos exportations représentent 20% des emplois. Le marché unique est donc vital pour nos entreprises, dit-on du côté du MEDEF, notamment, qui met aussi en avant le poids de l'Union dans les négociations de traités de commerce internationaux. Négocier en ayant 450 millions d'habitants à fort pouvoir d'achat est un avantage à ne pas négliger. Le Parisien, donc ça, c'est le début de la série de la Croix sur les questions qui fâchent, les reproches qu'on fait à l'UE. Vous en avez 1 sur 10, il y en a 9 qui vont arriver dans les prochains jours. Et le Parisien se penche aussi sur cette élection européenne et cette campagne qui débute, là, officiellement ce soir, je crois, avec un coup de projecteur sur la poussée populiste. Alors, populiste, c'est un terme très générique, très vague, pour recouvrir la droite radicale, l'extrême droite, les droites nationalistes, qui sont des mots proches, des concepts proches, mais qui ne sont pas toujours la même chose, quoi. Et on va voir qu'au niveau de la droite populiste, on va appeler ça comme ça, des partis populistes, eh bien, il y a plein de partis qui, souvent, ne sont pas d'accord entre eux. On va se pencher sur ça, sur le succès dans les intentions de vote de ces partis, comme le Rassemblement National en France, par exemple. Parfois, les messages, je les lis, mais je comprends chaque mot, mais je ne comprends pas la phrase, en fait. Mais en rebond à ce qu'on vient de lire sur les reproches qu'on fait sans arrêt à l'UE, je trouve qu'il y a un édito de Nicolas Charbonneau, je rappelle un édito, c'est un article où le journaliste donne son avis, mais il vous signale qu'il va donner son avis. Usubi, merci beaucoup. Mirette, merci à tous les deux. Qui s'appelle Le goût de l'autodestruction, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Let's go. Comme j'ai mis du jaune partout, c'est que je le trouve plutôt pas mal. C'est la maladie des pays riches qui se rendent plus compte de leur atout et parfois, dans une forme de folie autodestructrice, sont convaincus qu'il faut se livrer aux populistes qui appellent eux au repli sur soi. Des populistes qui répètent en boucle que l'Europe est le problème, quand elle est au contraire la solution face aux assauts qu'elle subit. Et très franchement, quelles sont les alternatives, demande Nicolas Charbonneau. Comment aurions-nous traversé la pandémie ou affronterions-nous aujourd'hui les appétits de Poutine sans l'Europe ? Seulement voilà, nous sommes puissants mais grincheux, avons l'art et la manière de nous autoflageller, et ne sommes pas suffisamment ambitieux. Au fond, le pire ennemi de l'Europe est peut-être l'Europe elle-même, qui ne s'aime pas, qui peut mourir d'elle-même, disait le président Macron, cité par Charbonneau. Nous sommes 27 pays réunis, 450 millions d'habitants, à la tête d'une économie puissante, nos nations, nos cultures, notre histoire, notre défense devraient faire trembler nos adversaires, à la condition d'en être nous-mêmes convaincus. Il faut penser grand, donner le goût de l'Europe, le marteler, elle ne doit pas faillir, elle n'est pas seulement un projet, elle est aussi une ambition nécessaire, ne jamais laisser les populistes dire le contraire, dit Nicolas Charbonneau. Il est temps de s'en convaincre, de montrer un peu les muscles, car soyons clairs, nous avons à nos portes une Russie qui veut la mort de l'Union, un vieil allié américain qui pourrait bien prendre ses distances en fonction du résultat de la prochaine présidentielle, des défis économiques, des défis migratoires. Nous sommes attaqués, mais nous avons tous les atouts pour nous défendre et pour l'emporter. Un édito un petit peu optimiste sur l'Europe de Nicolas Charbonneau. Et si l'Europe a bien des défauts, il ne s'agit pas de nier les défauts de l'Europe. Il y a Joe qui régale et qui nous fait un joli raid. Merci Joe. Vous étiez sur quoi ce matin ? Vous parliez un petit peu de photographie ? Mon ami Joe qui nous raide. Et si l'Europe a bien des défauts, c'est d'abord une formidable opportunité. Voilà. Bon, là on parle d'un article d'un... Vous avez raison, le chat a bien raison. N'hésitez pas à suivre la chaîne de Joe, mon ami Joe. Elle est en haut dans le chat. Hein, Joe qui est mon partenaire sur tous mes streams compliqués. Voilà. Et qui m'apporte ses lumières technique, mais aussi éditorial, puisque Joe connaît parfaitement cet univers de Twitch, et on en parle beaucoup ensemble. Retouche photo, ah, je m'en doutais que c'était un petit peu de la photo. Notamment les photos peut-être d'Elidia, je pense. Donc voici pour ce, on va dire, cet édito, on ne leak pas, en forme de plaidoyer pro-Europe. Et maintenant, un papier sur eh bien, ces partis populistes, hein, puisque c'est comme ça que le Parisien en parle, ou d'extrême droite, qui sont annoncés comme très très forts dans les élections européennes à venir, hein, si on en croit les sondages. De Xuxu 7, merci pour le 7e, moi tu régales. Bonne journée à toi aussi. Est-ce que l'extrême droite va tout chambouler ? Les partis populistes devraient faire une percée parmi les 27, hein, c'est ce que disent les sondages, mais, et c'est le bémol qui arrive là, ils sont divisés entre eux, au Parlement européen, et ne devraient pas former de groupe commun. Comment ça se fait, ça ? Parti d'extrême droite, s'ils sont élus, ils se mettent dans un groupe pour peser ensemble sur la politique européenne. Hein. C'est logique. Eh bien, en fait, non. Pourquoi ? On va le comprendre. S'il est impossible de prédire précisément les équilibres politiques qui émergeront en Europe du scrutin, une chose paraît néanmoins déjà actée. Le meilleur score de son histoire pour l'extrême droite dans des élections européennes, des 720 députés jusqu'à un quart pourraient être issus des rangs nationalistes et populistes. Ce qui est énorme, hein, 25%. Merci. De telles formations, pour la plupart très critiques de la construction européenne d'ailleurs, pourraient décrocher la première place en France, Rassemblement National, en Autriche, en Pologne, en Italie, bon résultat aussi en Allemagne, en Espagne, au Portugal, merci Lucas, tu régales, en Suède, à Bruxelles, où le bilan des 5 dernières années est plutôt jugé positif au niveau européen, bon, après, c'est Bruxelles, c'est normal, ils ne vont pas dire « Ah, on fait que de la merde, l'Europe et tout. » Etteia Panda, mais si, tu te sous-estimes, Etteia. À Bruxelles, évidemment, on trouve que le bilan des 5 dernières années est globalement positif. Unité après le Brexit, soutien à l'Ukraine, plan de relance, gestion de la pandémie. Cette vague brune, extrême droite, annoncée, interroge. Du côté de Bruxelles, on dit « Non, il n'y a pas de rejet de l'Europe, mais il y a une massification des efforts de désinformation favorisés par le numérique. Bon, on se rassure comme on peut. Quelle qu'en soit la racine, l'extrême droite est bien partie, en tout cas, pour déferler sur l'Assemblée européenne, hein, sur le Parlement européen. Pourtant, sera-t-elle en mesure de peser sur le cours du prochain quinquennat ? Ben, c'est deux choses différentes. Tout dépend, en fait, de quelle extrême droite on parle. Vague brune, ça, c'est une référence historique numérique. Certains sont un peu interloqués peut-être par cette expression de vague brune. En fait, c'est dans l'histoire, on parlait de vague brune pour parler des fascistes notamment. Voilà, et de l'extrême droite. Bon, ça, c'est de l'histoire. Dans l'hémicycle à Strasbourg, ces partis d'extrême droite sont divisés en deux grands ensembles. Alors, moi, j'apprends, bon, je ne suis pas un spécialiste de la politique européenne, loin de là, mais déjà, j'apprends que l'extrême droite est divisée en deux grands groupes. D'un côté, le groupe Identité et Démocratie, où siège l'ERN français
et la Lega italienne de Matteo Salvini. Groupe plutôt radical, jusqu'ici ostracisé derrière un cordon sanitaire, qui vient quand même d'exclure de ses rangs un parti, l'AFD allemand, qui était trop à l'extrême droite de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que la tête de liste de ce parti avait déclaré qu'un SS, les SS, les fameux SS nazis, n'était pas automatiquement un criminel. Donc là, même à l'extrême droite, ils se sont dit « Putain, quand même, t'abuses, là !» Bon, et donc, du coup, ils l'ont mis dehors. Bon. Donc ça, c'est le groupe, on va dire, plus radical. Et puis, vous avez un groupe d'extrême droite plus modéré, hein, le groupe des conservateurs et réformistes européens, où on trouve notamment le PiS polonais, le Fratelli d'Italia... donc c'est la formation de la présidente du conseil italien Giorgia Meloni, Reconquête aussi, qui est pourtant en France considérée comme plus à l'extrême droite que Marine Le Pen, bon. Mais globalement le groupe est plus proche de la droite conservatrice et surtout joue plus le jeu parlementaire en votant les lois, quoi, en étant présent et en travaillant au niveau législatif européen. Donc deux grands groupes, des divisions, oui, extrême droite modérée, j'ai mis des guillemets à hasard, hein, parce que oui, bah oui, T'as toujours plus à droite, quoi. Ils ont quand même viré les Allemands, là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme en course à pied, t'as toujours un mec qui invente une course à pied plus difficile en disant « C'est moi qui ai inventé la course du monde la plus difficile. » Ben, à l'extrême droite, manifestement, c'est pareil. Il y a toujours un gars qui dit « Vous êtes démodéré, moi je vais créer un vrai, vrai parti d'extrême droite. » Bon, chacun sa course, hein. Chacun sa course. Entre les groupes, mais aussi entre leurs seins, en leur sein, l'hétérogénéité de ces partis est une limite majeure à leur influence dans l'UE, et estime une professeure spécialiste des partis eurosceptiques à Bruxelles, qui s'appelle Nathalie Brack, et elle conclut, par nature, il est difficile de créer une internationale des nationalistes. Quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'extrême droite au niveau mondial et européen, vous vous rendez compte effectivement que les partis d'extrême droite ont beaucoup de mal à s'entendre. Pourquoi ? Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en forme de blague. Hein. Un Allemand qui dit « Allemagne first », un Français qui dit France first, un Italien qui dit Italy first, bah, tant qu'ils restent en Italie, en France ou en Allemagne, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais au moment où ils se rencontrent et ils sont censés bosser ensemble, par exemple au niveau européen, bah, c'est plus compliqué, quoi. Ils sont un peu moins d'accord déjà. Vous comprenez bien pourquoi. Donc ça va des nationalistes qui s'unissent au niveau européen, ça ne marche pas très bien. Bah, c'est tout le problème. C'est tout le problème. À une époque, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait au RN en France. Mais pourquoi vous présenter les élections européennes alors qu'en fait vous voulez qu'on sorte de l'élection européenne, de l'Union européenne. Et il disait, ah bah c'est un peu pour foutre le boxon en fait. Et même pas pour changer les choses de l'intérieur, parce qu'il voulait pas changer les choses de l'intérieur, il voulait qu'on sorte de l'Union européenne. Donc il y a des gens qui disaient, mais pourquoi vous présentez à ces élections européennes, ça n'a pas trop de sens. Et aujourd'hui le débat n'a plus lieu puisque Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'Union européenne, elle a changé d'avis. Voilà, il y a quelques années elle disait, il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de la monnaie unique. Bon, ceux qui votent RN aujourd'hui en pensant que ça va nous sortir de l'Union européenne, bah, arrêtez de voter RN puisque Marine Le Pen a changé d'avis là-dessus. Voilà. Et elle a trouvé un autre parti, mais il n'y en a plus beaucoup qui veulent le faire. Enfin, je suis un peu coach aussi en vote Marine Le Pen, n'hésitez pas à me conseiller là-dessus. Si vous voulez la réalité du programme, je le connais un petit peu. Voilà. Ben, du coup, du côté de la majorité, on la critique un peu là-dessus en disant mais... Du côté de la majorité et des critiques du RN en France, on dit quand même que Marine Le Pen est très girouette sur ses prises de position politique. Voilà. Bon, c'est le sprint final. Pourquoi on en parle des élections européennes ? Bah, c'est parti. Ce lundi à 0h, donc si je ne dis pas de bêtises, 2 heures après le début du match d'Amine là, ce soir. Ce serait intéressant de voir les audiences d'Amine, ça va être énorme ce soir. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bah, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, géologue. Ouais. Ou alors il s'agit d'attraper les votes des gens pour arriver au pouvoir. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas spécialiste. Ce lundi à 0h débute donc en France la campagne officielle des élections européennes qui s'achèvera le 7 juin à minuit. L'enjeu du scrutin est simple. Désigner les 81 représentants français qui vont siéger pendant 5 ans au Parlement européen sur les 720 députés. Chaque liste qui dépassera 5% se verra attribuer un nombre de sièges proportionnels, puisque ce sont des élections à la proportionnelle. Ah, c'était ce matin, lundi minuit ? Ok, je me posais la question. Harold dit c'était ce matin, en fait. Donc, c'est pas impossible, je me suis posé la question. C'est pas impossible, merci Harold. Et si eh ben, la liste est en dessous de 5%, ben, t'as 0 député. Je crois même qu'au niveau des frais de campagne, tu l'as un petit peu dans l'os. Les 15 prochains jours s'annoncent donc intenses. et les grands meetings des têtes de liste vont succéder. Je vous ai pas trop parlé des élections européennes ces derniers mois. Je pense que là, on va commencer à le faire. Est-ce qu'il me reste du temps ? Oui, il me reste encore que 40 minutes. Pour les frais de campagne, c'est 3%. Ah putain, mais vous êtes fort ! Putain, monsieur Demesmaker, Dreykos, qui dit alors les frais de campagne, c'est remboursement à partir de 3%. Putain, vous êtes chaud, ouais. J'appelle ça l'info augmentée. J'aimais des infos que j'essaie de qualité, grâce aux journaux que je lis, mais parfois, il y a des gens qui connaissent bien le sujet, encore mieux, et on arrive à une info encore plus précise. Remboursement des frais de campagne à partir de 3%. C'est beau, ça. Non, mais c'est beau. J'ai faim, j'ai tout le temps faim, c'est affreux. L'assurance chômage, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers mois, parce que je trouve que c'est un sujet très important, mais bon, je vous en parle, parce que ça y est, on sait ce qu'il va y avoir dans cette troisième modification de l'assurance chômage en France, hein. Par le pouvoir en place, voilà. Nouveau tour de vis sur les chômeurs, je vous ai déjà beaucoup parlé de ça, mais ça y est, c'est officiel. Réforme de l'assurance chômage, le pire est à venir, dit Libé qui dénonce cette réforme. Durcissement des conditions d'ouverture de droits, réduction de la durée d'indemnisation, mise à contribution des seniors, la troisième modification de l'assurance chômage, régime pourtant excédentaire, opérée sous l'ère Macron, concernera tout le monde. Elle entrera en vigueur au 1er décembre. Pécresse, 4%. Chouchou, on parle des européennes, là, on ne parle pas de la présidentielle. Hein, on parle des européennes, les amis. Confondez pas tout. Hein, chaque élection, ses règles. Dimanche, Gabriel Attal aura donc attendu l'ultime limite avant de dévoiler le nouveau coup de bâton qui sera infligé aux privés d'emploi à compter du 1er décembre, quand vont entrer en vigueur les mesures prévues dans le décret qui va être publié le 1er juillet. En fait, il n'y avait pas grand-chose à révéler, puisque je vous en avais parlé ces derniers jours. Les principaux éléments du projet ayant été éventés durant la semaine lorsque la ministre du Travail, Catherine Vautrin, a présenté la réforme aux partenaires sociaux, aux patronats et aux syndicats. Des syndicats qui sont convaincus que parmi tous les changements de règles opérés il y a des années, eh bien celui-ci, celui qui vient là, sera le pire. Le plus violent du côté de la CGT, le pire, ce sont les mots de Force ouvrière. Le Premier ministre, lui, il continue de surfer sur la défense supposée des Français qui travaillent. Hein, c'est un peu l'argumentaire du côté du gouvernement. Il y en a marre d'aider les assistés, et la France qui bosse, la France silencieuse qui dit rien, et qui paye ses impôts, et machin. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc on va taper sur les chômeurs. Ok, bon, c'est un peu l'argumentaire que je simplifie. Voilà. Opposé à ceux qui se la couleraient douce en touchant les allocs, hein, les fameux assistés. Voilà. Ça, c'est bon, c'est le discours qu'il y a derrière cette réforme, dont on a déjà beaucoup parlé ici. Et où on a dit que c'était un peu de la merde, ce discours, en vrai. De penser que la majorité des chômeurs sont des assistés et que c'est des tirs au flanc et que voilà. On sait que ça n'est pas la réalité. Mais on ne va pas y revenir parce qu'on en a déjà parlé 1000 fois. Que va-t-il se passer ? La partie la plus visible de la réforme consistera à un durcissement des conditions d'ouverture des droits, encore, puisqu'il y a 5 ans, il fallait avoir travaillé 4 mois au cours des 28 derniers pour ouvrir des droits. En 2021, réforme, il fallait 6 mois de travail, voilà, et maintenant on va passer à 8 mois de travail sur les 20 derniers pour ouvrir des droits. On passe de 4 à 8 mois. Le profil des futures victimes est connu, dit Libé, il s'agira notamment des primo-inscrits à France Travail, parce qu'on ne dit plus la NPE, on ne dit plus Pôle emploi, on dit France Travail, ça a encore changé. Puisqu'on démarre bien souvent sa carrière par un CDD et que ceux de plus de 8 mois sont plus rares que ceux de 6 mois. Ça va toucher aussi des personnes qui alternent souvent. Je comprends ta question, Affine Nostress. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Les personnes qui souvent alternent durablement emploi et chômage, elles mettront plus longtemps à ouvrir leurs droits, mais aussi à les recharger. Bref, pour simplifier, nous dit Libé, les plus touchés vont être les plus précaires. C'est-à-dire les abonnés au CDD et à l'intérim qui font tourner des pans entiers, pourtant, de l'économie. L'article est assez complet dans Libé, je vous invite à le lire si vous y avez accès. Les seniors, donc les gens, les vieux comme moi, ne seront pas épargnés non plus, avec un relèvement à 57 ans, contre 53 actuellement de l'âge pour bénéficier d'une indemnisation rallongée. Bon, moi, je viens d'avoir 50... Quel âge, nom de Dieu ? 50. J'ai 53 ans ? C'est pas possible. Attends, j'ai 53 ans. Oh putain. Bon, alors normalement, 53 ans, j'aurais eu droit normalement à une indemnisation rallongée si j'arrivais au chômage. Hein, si France Télévisions me trouvait trop vieux, par exemple. Eh ben non, c'est fini. C'est 57 ans maintenant. Voilà. Et l'indemnisation rallongée, elle durera plus 27 mois comme avant. Elle durera 22 mois. Vaut mieux pas être vieux et au chômage. Hein. Tout en réduisant la durée d'indemnisation, le gouvernement prétend par ailleurs renforcer le cycle de contrat cyclicité. Ça, c'est autre chose, très, très important, ça. On a parlé de Rafa, ouais, c'était au début Shakishan, joli pseudo. Le principe de contrat cyclicité, introduit par la réforme de février 2023, ça a l'air compliqué comme ça, mais je vous expliquais. Pour rappel, ce principe prévoit que les règles sont durcies quand la conjoncture économique est favorable, donc on durcit les conditions d'accès au chômage. Quand l'économie se porte bien, en gros. Neono39, hélas, tu connais mal l'arrêté de l'entreprise pour dire ça. Hélas. Merci Don War pour le soutien, tu régales. Merci pour le 25e mois. C'est énorme. Anachrona, merci pour le soutien. Merci beaucoup. Donc, on durcit les conditions d'accès au chômage quand la conjoncture est favorable. On les assouplit quand elles se dégradent. D'où la réduction de 25% de la durée d'indemnisation qui s'applique quand le taux de chômage est inférieur à 9%. Là, en gros, on est à peu près 7,5%. Voilà. Et si le taux de chômage descend jusqu'à 6,5%, et bien la durée d'indemnisation va encore diminuer à 12 mois. Waouh. Ouais. Voilà, pour simplifier, c'est plus dur d'avoir du chômage, il faut travailler plus longtemps pour l'avoir, et vous toucherez moins. Et pourtant, le régime est bénéficiaire. Voilà. Et là, à un moment, vous allez me dire, bah alors, attends, si on va distribuer moins d'argent aux chômeurs, on va baisser les cotisations chômage alors. Ben souvent, on me dit ça dans le chat. Ce sera très pertinent comme réaction. Non. Eh oui. Que nenni. Pourquoi ? Je sais pas. Ça devrait. Voilà. Ben, je dis rien. C'est ouf. Bon. Tout ça pourquoi ? Ah, le meilleur est pour la fin de l'article. Tout ça pourquoi ? Le gouvernement escompte 90 000 emplois supplémentaires. C'est bien 90 000 emplois supplémentaires. Hein ? Mais Libé rappelle, bah, il y a 3 millions de personnes qui pointent actuellement à France Travail en catégorie A. Hein ? Le Premier ministre répète à qui veut l'entendre que ce n'est pas une réforme d'économie pour faire des économies. Mais pourtant, ça va générer 3,6 milliards d'économies. Voilà, dans un régime qui est pourtant déjà excédentaire. Voilà. Récemment, dans les derniers jours, on est allé voir dans les échos, une interview d'un professeur d'économie à Sciences Po qui disait les réformes de ces dernières années sur l'assurance chômage, ouais, pourquoi pas, c'est vrai qu'on avait un régime un des plus généreux en Europe, mais là, franchement, on va trop loin et on tape et on stigmatise un peu le chômeur, disait ce spécialiste d'économie. Voilà. Après, à vous de vous faire votre avis, de faire vos recherches par rapport aussi à ce que vous connaissez de cette question. On parle d'infobésité. Je voulais un petit peu sur le chômage quand même, parce que je lis pas trop vos réactions, là je m'en veux un peu. Salut Bixno. Alors, Cobb dit, mais je comprends pas pourquoi ils réforment un truc qui est excédentaire, c'est quoi leur excuse ? En fait, dans la philosophie, moi j'aime bien mettre à la place des gens, notamment ceux qui pensent pas comme moi, dans la philosophie du gouvernement, en fait l'idée c'est que plus on durcit les conditions d'accès au chômage, plus on va inciter les gens au chômage à trouver du travail. La philosophie derrière ça, c'est de supposer que les gens sont contents au chômage. Quoi. Pardon, mais contents d'être au chômage, qu'ils profitent un petit peu, un peu ils se la coulent douce. Donc c'est un peu trop cool. En durcissant le truc, on va les inciter plus. Ça, c'est supposer qu'il y a du travail, en fait. C'est supposé qu'il y a du travail et supposé que les chômeurs n'ont pas envie de travailler. C'est ça la philosophie derrière. Voilà, c'est tout. Bon, c'est derrière. J'ai une image qui me vient en tête, je ne sais pas si c'est la bonne image, mais à une époque, il y avait des municipalités qui s'étaient fait très critiquer. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient mis des espèces de barres sur des bancs publics pour empêcher les SDF de dormir dessus la nuit. Voilà. Pour que ce soit tellement inconfortable que les sans-domicile fixe ne pouvaient pas dormir dessus. Bon, bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le banc, c'est le chômage, et on le rend tellement inconfortable qu'on se dit, bah, du coup, ils ne vont plus dormir dessus. Quoi. Bon. Sauf que parfois c'est un peu plus compliqué. Ouais. Bon, moi je défends pas tellement cette réforme, vous l'avez compris, parce que je pense qu'effectivement on va trop loin là. Et peut-être qu'il y a des gens qui profitent du système. Oui, ça existe. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des gens qui profitent de. On a tous rencontré des gens qui étaient un peu en mode cool. Voilà. Oui, ça existe. Mais je ne pense que. Je suis persuadé que ce n'est pas la majorité des demandeurs d'emploi. Et que je ne pense pas que personne souhaite être au chômage, en fait. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer et pas se laisser abuser par des cas particuliers pour se faire une idée du comportement général. Et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui profitent du système qu'il faut jeter l'intégralité du système. Peut-être qu'on peut réformer le système pour que ceux qui en profitent, alors qu'ils ne devraient pas, soient ou sanctionnés ou qu'on trouve des solutions pour éviter les... voilà. De même qu'il y a des gens qui fraudent aux allocations familiales, etc. Ça existe. Mais un, ce sont des comportements minoritaires. Deux, donc, mais par contre, il faut essayer de les chasser, ok, pour justement le bien commun. Et deux, là aussi, revenons aux chiffres. On sait aussi que le montant de ce qu'on appelle la fraude sociale, donc les gens qui profitent des allocations ou du chômage, par exemple, alors qu'ils n'y ont pas droit, ou bref, le montant de la fraude sociale, on le mesure, hein, il est à peu près mesuré. Il existe, mais il est ridicule par rapport à un autre chiffre, qui est celui de la, là, dans le chat vous l'avez, parce que vous suivez un petit peu l'information, de la fraude fiscale, ouais, notamment des entreprises et surtout des grosses entreprises. Voilà. Donc, si on veut trouver des sous, on sait qu'il y en a. C'est tout. Donc, on parle d'infobésité un petit peu. Oui, le sudiste, normalement, la matinée Étienne, c'est chaque matin, c'est le concept, sauf que j'étais un peu paresseux ces dernières semaines. Mais surtout, j'ai eu beaucoup trop de travail avec mes projets sur Twitch et Questions pour un champion. Donc, ce rendez-vous quotidien l'est devenu un peu moins et je m'en veux un peu. Donc, je vais remettre l'accent sur la revue de presse. Je vais essayer d'en faire le maximum. Merci, Don War, encore. L'infobésité. Intéressant, ça. Mais taper sur les petits, c'est toujours plus simple. Oui, cette sauce. Moi, je suis d'accord. Brainwash. Toujours plus simple de taper sur ceux qui ne peuvent pas se défendre. Est-ce que vous avez déjà vu des grosses manifestations pour défendre les chômeurs? Est-ce que vous avez vu des grosses manifestations en France pour défendre les plus précaires, les gens au RSA, tout ça? Vous en avez vu des manifestations comme ça? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc tu peux taper sur ces gens-là, tout le monde s'en fout. Ah, les gilets jaunes, c'était autre chose, c'était plus complexe. Les chômeurs, ils vont pas manifester. Pourquoi ça n'existe pas? Bonne question, Titouanisme. Je n'ai pas la réponse à tout. Il n'y en a pas. Voilà. Allez, parlons du fait qu'on est abreuvé d'infos et que ça peut faire vriller la tête, quoi. Infobésité ou quand le trop-plein d'informations fait mal. C'est un petit article, mais je trouve vraiment très important. Bravo à Aurore Emley dans le Figaro qui a écrit cet article. Mail, réseaux sociaux, médias en continu, l'avalanche de données accessibles grâce au numérique crée des problèmes d'un nouveau genre. C'est un néologisme apparu au Québec dans les années 90 qui dit tout de notre saturation, autrement appelée surcharge informationnelle, l'infobésité, guette l'homo sapiens hein, du 21e siècle, littéralement submergé. En cause, la croissance du numérique, la multiplication des canaux d'information, mais aussi la tendance à partager de plus en plus d'éléments en toujours sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'infos avec l'explosion du numérique. Et puis, nous sommes tous émetteurs d'infos aussi. À un moment, ça fait trop, quoi. Nous sommes débordés, nous sommes exténués. Selon une enquête de l'Observatoire Société et Consommation, il ressort que 53% des Français disent souffrir de fatigue informationnelle. 38%, plus d'un tiers, en souffrent beaucoup. Non content d'être désormais connecté à une foule de médias, nous le sommes en permanence, sans répit, sans repos. Le soir, au lit, on regarde le truc du téléphone, les dernières infos. On se réveille le matin, on l'allume, bim, bam, bim, bam. C'est épuisant, ça. On va péter un câble. Merci, Nicochon. Joli pseudo. On va péter un câble, je vous le dis, moi. Un tel flux épuise nos ressources mentales. Le cerveau sursollicité ne parvient plus à gérer autant d'informations puisque sa capacité à les traiter, à les comprendre, à les contextualiser est limitée. La surcharge a donc des conséquences sur notre fonctionnement cognitif, des capacités d'attention, de mémorisation, de planification, de décision qui se voient fragilisées. Hein. En fait, ça nous nique le cerveau, je vous le dis, ça, je vous le dis avec mes mots à moi. Hein. Éparpillés nous sommes et surtout anxieux au point de frôler le burn-out numérique. Ça nous fatigue, ça nous rend moins bons dans la prise de décision, par exemple, parce qu'en fait, on est submergé d'infos, voilà, et ça nous rend anxieux. Et moi, je vais vous proposer des solutions, là, parce que je ne suis pas là que pour donner des mauvaises nouvelles. Moi, j'ai des solutions à vous proposer là-dessus. La multiplication des messages ne détériore pas seulement nos facultés. Selon Catherine Sauvageol-Rialan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Infobésité, comprendre ou maîtriser la déferlante d'informations », elle dit « La surcharge informationnelle génère de l'incommunication entre les gens et est responsable d'une dégradation des relations aussi. » La consultation incessante de nos smartphones, hein, moi je le fais parfois même en live, tout à l'heure, je peux m'empêcher, tu vois, je regarde pour voir si j'ai pas raté une info importante au niveau notamment des projets sur Twitch en ce moment, parce que je fais un peu trop de choses d'ailleurs. Moi aussi j'ai le cerveau qui... Je fais trop de choses, c'est pas sérieux. Il y a Joe qui m'envoie une... Il y a Joe qui m'envoie une belle photo là, je vais la tweeter tout à l'heure. Je vous la montre en avant-première, elle est magnifique. Hier soir, Elidia, qui est une streameuse que j'adore, était la dernière invitée de la saison 1 de Sam Play. On a joué à Wii Sports, c'est en replay sur YouTube. Vous allez vous régaler pour ceux qui n'ont pas vu ce live. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Joe, attends, voilà, Joe vient de m'envoyer la photo qu'il a fait hier. Là. Attends, la caméra va faire le point. Voilà. Je la mettrai sur les réseaux tout à l'heure. Regardez, la jeune génération, la vieille génération, Elidia, elle a quoi, 19 ans, 18 ans, je ne sais plus. 19 ans, je crois. Et son grand-père à côté, là. Voilà. Et on fait un petit cœur avec nos doigts. J'ai eu beaucoup de mal. C'est très difficile à faire. Parce que j'ai de l'arthrose, bien sûr. Voilà. Pourquoi retoucher ? Ah non, pour la lumière, tout ça. Joe, après, il fait un petit travail pour que ce soit... Il travaille sur plein de choses. Ça, passionné de photo. Elle va avoir 20 ans bientôt. Ah oui, c'est ça. Elle va avoir 20 ans dans quelques jours. Le 4 ou le 5 juin. Merci, Barthéon, pour le prime. J'ai 5 en tête, mais ça va être 4. Ouais, pour travailler sur les couleurs, tout ça. Le 4. C'est le 4. Ouais, c'est vrai, je vais acheter un petit cadeau. Ça y est, je l'ai acheté ce matin. Et Noriel à la rêve, quand j'ai appris que c'était son anniversaire hier soir, je lui ai dit que je lui allais lui faire un petit cadeau pour le travail, pour ses streams, parce que c'est quand même une streameuse passionnée. Elle stream, effectivement. Et donc, ça y est, je lui ai acheté. Là. Je l'ai acheté ce matin, avant la revue de presse. Donc, je reviens à mon OB machin, là. Comment on dit ? Infobésité. Donc ça abîme aussi nos relations entre nous. La consultation incessante de nos smartphones nous empêche d'accorder notre attention pleine et entière à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Oui, c'est ça, c'est un micro. Chapix. C'est un super micro. Nous zappons d'un interlocuteur à l'autre, d'un échange à l'autre. Ce faisant, nous nous privons d'un accès à l'essentiel de la relation, à la profondeur de l'expérience humaine. L'information elle-même pâtit de l'abondance. Merci Tifas Tri Phoenix pour le prime à l'instant. Un renseignement chasse l'autre, en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Ce que nous glanons ici ou là souffre d'un manque de hiérarchisation. Il y a plein d'infos qui arrivent, on n'arrive pas à les hiérarchiser. Quelle info est importante ? Ça, c'est important. Thibaut Inchep, premier youtubeur de France, le Proche-Orient, trop de choses. Hein. Tout est mis à plat sans aucune perspective, notamment sur Internet. Hein. Le superficiel côtoyant l'essentiel, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant. Pire encore, le brouhaha, au lieu de mieux nous informer, participe à une désinformation. Nous sommes comme aveuglés par un nuage informationnel, écrivait déjà Edgar Morin en 1981. Quelqu'un me disait dans le chat, mais cet article enfonce un peu des portes ouvertes. Oui, il y a des gens des 1000... Non, c'est 12h30. J'ai le temps. Mon petit chouchou, il a école à 13h30. Donc, je mets fin du stream à 12h30, comme ça, en gros, on part à l'école à 13h. J'aime bien prendre le temps pour marcher avec lui. Du coup, tu contribues à ce mal-être, Samuel Etienne Libroune ? Ben non, justement, je vais t'expliquer. Parce que moi, je vais vous donner des clés pour... Il y a des gars en 1980 qui annonçaient déjà ça, quoi. Le digital... Ah, arrêtez avec le digital. Le numérique, censé nous faciliter la vie et nous faire gagner du temps, serait-il contre-productif ? L'infobésité relève aussi de nos propres comportements. C'est aussi à nous, justement, de nous organiser différemment. C'est là où je vais vous proposer des solutions. Pour éviter la surenchère et le perpétuel goût d'inachevé, la consultante que nous évoquions tout à l'heure, qui a écrit le livre, prône l'info-responsabilité et propose de devenir notre propre directeur de l'information. Voilà. À nous de mettre un petit peu de rigueur dans tout ça. La certitude selon laquelle nous pouvons tout voir, tout lire, tout traiter doit être définitivement abandonnée. Je répète cette phrase qui est essentielle. Merci Blind Feeder. Merci Barthéon D pour le Prime. La certitude selon laquelle nous pouvons tout voir, tout lire, tout traiter doit être définitivement abandonnée. Nous n'empêcherons pas plus l'information de proliférer que la terre de tourner. Il s'agit désormais de prioriser, de hiérarchiser, de sélectionner notre nourriture mentale en renonçant à cette illusion de la toute-puissance et en choisissant en conscience nos canaux d'information. Ilaïsa, ouais, au début de ce stream, tu l'as en replay, c'était tout à l'heure. Et surtout en amont, le temps que nous voulons y consacrer, car dans le cas contraire, la puissance des algorithmes aura vite fait de nous faire perdre le fil. Les amis, face à ce truc, ce déferlement d'infos là qui nous nique le cerveau, qu'est-ce qu'on fait ? On déconnecte un peu. Exemple concret. Moi, j'ai souffert de ça parce que je suis un journaliste et, et à un moment, j'ai subi de plein fouet cette avalanche de l'information, notamment numérique, voilà. Et que j'ai vu autour de moi aussi. Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai aucune je donne des exemples concrets. Après, chacun met ça à sa sauce. Je n'ai aucune notification sur mon téléphone. Je suis plein de sites d'information, vous imaginez bien, je n'ai aucune notif. Jamais j'ai une notif sur mon téléphone qui me dit il vient de se passer ça en France ou dans le monde. Jamais, jamais. Ça vous nique la tête. Pas de notif. Mais même mes WhatsApp sont tous dénotifiés. D'ailleurs, je n'ai aucune notif de mes messages WhatsApp. J'ai juste mes SMS. Aucune notif de mes mails non plus. Voilà. Mes mails, je les vois si je veux aller les voir. Mes messages sur WhatsApp, je vais les voir. Si je veux les voir, je vais les voir. Voilà. Je n'ai jamais un message sur WhatsApp qui peut pas attendre 3 heures ou une demi-journée que je le lise, quoi. L'information, c'est pareil. J'y ai beaucoup bossé parce que le faire, c'est plutôt intéressant. Mais pourtant, je vais vous dire un truc. Les chaînes d'infos. Regardez pas les chaînes d'infos, les gars. Ou alors avec modération, quoi. Une chaîne d'infos en continu qui veut vous faire croire certaines qui se passent à chaque seconde, à chaque moment, quelque chose d'essentiel que vous ne pouvez pas rater, on vous ment, les gars. C'est de la connerie. Ça, c'est pour que vous regardiez, c'est pour l'audience, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. À regarder, ouais, comme le dit Toissou, une petite boucle de 20 minutes de temps en temps, ben pas plus. 20 minutes d'infos sur une chaîne d'infos par jour, maximum, maximum, maximum. Moi, je regarde pas les chaînes d'infos. Bah, je suis plutôt au courant d'eux. Je ne m'informe pas sur Internet. Voilà, les infos, je ne vais pas les chercher sur Twitter, je ne vais pas les chercher sur Facebook, sur Insta ou que sais-je. Parfois, la source n'est pas bien identifiée, tu ne sais pas bien qui te parle. Voilà. Moi, j'aime bien m'informer auprès de médias dont je connais l'histoire, dont je connais le passé, le passif, les erreurs, les succès, qui est derrière, voilà. Donc mon plaisir, mon choix très subjectif que vous n'êtes pas du tout obligé de choisir et d'embrasser, c'est de lire la presse écrite. Moi, j'adore les journaux parce que je sais qui m'écrit, je sais qui me parle. Là, je sais que c'est Aurore Hemley, qui est une personne qui existe, qui a écrit cet article. Cet article a été écrit, il a été vérifié par les confrères du journal, a été relu par l'édition, par un rédacteur en chef. Et donc, déjà, il y a eu un petit tamis, un petit filtre pour éventuellement corriger les erreurs, les bêtises. Même si c'est un travail humain, il peut y avoir des erreurs dedans. Mais c'est un travail collectif, une rédaction. C'est pas quelqu'un tout seul sur Internet qui vous balance des infos, parfois en copier-coller, parce que ce travail n'est pas vérifié par personne. Un des intérêts du travail en rédaction, c'est déjà que c'est un travail d'équipe et que entre eux, ils se corrigent. Bon. Ensuite, un journal de presse écrite, celui que je lis en PDF ou en version print, c'est le résultat de 24 heures de travail. C'est pas la dernière info qui est tombée, et vite je la donne vite pour le donner avant le confrère, même si je la vérifie pas trop, c'est pas grave, on s'en fout, l'important c'est le premier à le donner, même si je raconte de la merde. Non, c'est un travail parfois de plusieurs heures, parfois de plusieurs jours, parfois de plusieurs semaines sur une information. Voilà. Donc un média qui prend un peu plus le temps. Or, le temps, la vitesse c'est l'ennemi de la qualité. Plus vous essayez d'aller vite pour donner une info, plus il y a de chances que vous donniez une info parcellaire, voire complètement erronée. Donc, il faut prendre le temps. Et la presse écrite est un média qui prend forcément un peu plus de temps que Internet ou d'autres médias où on essaie de donner la dernière info. Voilà. Je connais des chaînes d'infos que je ne nomme pas, que ça ne dérange pas de vous dire à 8h un truc le matin et à 8h30 exactement l'inverse sur la même info, sans un mot d'excuse, parce que tout simplement, entre-temps, ils ont eu d'autres infos. Voilà, ça fait deux infos. À 8h, une info. À 8h30, on donne une autre info qui n'a rien à voir avec la première, qui dit même l'inverse. C'est pas grave, ça fait deux infos. Voilà. Voilà. On s'en fout. Hein, c'est le robinet. C'est le robinet. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, oui, on s'est un peu trompé tout à l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave. Bah si, c'est grave, les gars. Ça m'intéresse pas. Voilà. C'est des choix. Après, à chacun de s'organiser. Mais en tout cas, à vous de trouver votre petite organisation perso pour... Ben, ne pas souffrir d'infobésité et à un moment d'être un peu perdu quoi, dans cette avalanche d'informations. Moi, parfois, ça m'arrive de ne pas lire les journaux pendant une semaine, voilà, parce que j'ai autre chose à faire, parce que j'ai d'autres trucs sur lesquels je dois bosser. Voilà, et c'est pas la fin du monde. Et quand je relis les journaux, ou joue trop à Valorant, exactement. Et quand je recommence à lire les journaux une semaine après, j'ai pas raté 1000 trucs. Quoi. Voilà. Et pourtant, c'est censé être mon métier. Voilà. Cool, l'info, cool. Lisez, informez-vous quand vous avez envie de vous informer. C'est plus la qualité du temps que vous avez. Bah, je préfère que vous passiez une demi-heure à lire un article de qualité ou un quart d'heure, une fois de temps en temps, plutôt qu'aller vous taper des heures à scroller sur Internet ou des heures de chaîne info. Où on va vous faire croire que le monde est en train de s'écrouler à chaque seconde. Depuis le temps que certains médias nous disent que le monde va s'écrouler à chaque seconde, et qu'il ne s'est toujours pas écroulé, vous voyez bien qu'il y a quand même une vision extrêmement dark et pessimiste du monde dans lequel on vit. Quoi. Allez, j'arrête. Thibaut InShape, article dans Le Parisien. Ouais. J'ai soif. Bon, il me reste un quart d'heure, je me dépêche. Premier YouTuber de France, hein, ce sont les chiffres qui le disent. Ça s'est fait ce week-end. Ce n'est pas une surprise dont on voyait les courbes se rapprocher ces derniers temps, mais c'est fait avec 18,9 millions d'abonnés à sa chaîne YouTube. Le YouTuber Thibaut InShape est donc devenu le dimanche le vidéaste le plus suivi en France sur la plateforme YouTube, détrônant ainsi Squeezie sur le trône depuis 5 ans. Voilà. Si ce dernier est connu notamment pour son GP Explorer, course automobile entre créateurs de contenu et ses productions de plus en plus impressionnantes, réunissant de véritables stars, a délaissé ces derniers mois sa chaîne YouTube. Ah, Squeezie, il était un peu moins investi ces derniers mois. Donc bref, si Squeezie a un peu délaissé sa chaîne, Thibaut InShape, de son vrai nom Thibaut Delapart, voit de son côté récompenser sa stratégie fondée sur la multiplication des shorts. Il fait une pause. Très bien. Eh bien, il a bien raison. C'est bien de faire des pauses. Tandis que Thibaut InShape, lui, a multiplié notamment les shorts, vidéos ultra courtes, similaires un petit peu à ce qu'on peut voir sur TikTok, à raison de plusieurs publications quotidiennes, parfois jusqu'à 10 publications par jour. Ces mini-séquences, facilement monétisables, car duplicables entre réseaux, ont permis à l'ancien étudiant toulousain de devenir l'un des plus prolifiques de la place et d'engranger, depuis l'été dernier, entre 1 et 2 millions de nouveaux abonnés chaque mois. Spécialisé dans la musculation et le fitness, un peu comme moi, beaucoup moins consensuel que son rival, écrit Le Parisien. Il a été impliqué dans un certain nombre de polémiques ces dernières années, de propos maladroits sur la dépression, à des accusations de racisme ou d'homophobie. Thibaut InShape avait ainsi ravi la deuxième place à Cyprien en janvier. En tant que youtubeur, il faut parfois frôler la polémique pour faire parler de soi, assume Thibaut InShape. Sans tabou, surtout pas celui de l'argent. Il nous indiquait il y a un an avoir gagné 3 millions d'euros grâce aux 4 milliards de vues de sa chaîne YouTube, chiffre qui a au moins triplé depuis. Bon, voilà. Article un peu carré qui donne les infos sur Thibaut InShape. Voilà. Je vous lis. Thibaut InShape. Il n'y a que des bots qui s'abonnent, me dit Wario Shop. Wario Pops plutôt d'ailleurs. L'article de merde, dit Menoex qui aime bien Thibaut. Dit, développe. En fait, article de merde, ça ne m'intéresse pas, Menoex, là. Mais que tu développes, ça m'intéresse. Si tu trouves quali le contenu de Thibaut Inchep et que tu trouves que le traitement médiatique qu'il lui est réservé là n'est pas cool, ça m'intéresse. Mais il faut que tu développes, sinon ça ne m'intéresse pas. Squeezie a un réel sens du travail et de la créativité, contrairement à Thibaut, me dit Théo Calvi. Squeezie, gros démago de gauche, Thibaut plus honnête, la gauche le harcèle, me dit Apollo Jazz. Vous voyez, moi tout m'intéresse. Thibaut qui est beaucoup suivi dans les pays asiatiques, c'est pour ça qu'il a autant d'abonnés. Je sais que je crois qu'il a du contenu en anglais notamment. Hein. J'avoue ne pas comprendre l'engouement auprès de Thibaut Inchep, me dit Sandra. Il fait du contenu de qualité, je trouve qu'il le mérite, me dit des toilettes de Seiku. Il ne mérite pas du tout ce titre vu le contenu entièrement plagé qu'il fait. Vous n'êtes vraiment pas d'accord. Hein. Tardigrade Explorer, vous voyez, ça m'intéresse plus comme analyse. Pour moi, les shorts, ce n'est pas vraiment du YouTube. Ce format court est trop commun à Insta, TikTok, tout ça. Article incomplet car beaucoup de follow viennent de l'étranger. Caradoc, ouais, ça c'est intéressant. Arrêtez de dire qu'il ne mérite pas. Le gars n'a pas pris de vacances depuis 10 ans, dit Ekosama. Bon, après, moi, je reconnais, moi, j'ai un certain respect pour la valeur travail, mais des gens qui n'ont pas pris de vacances depuis 10 ans en France, il y en a. Certains gagnent le SMIC. Hein. Donc, je comprends l'argument, mais il ne se suffit pas. Quoi. C'est des shorts sans parole, donc ils touchent l'international. Merci, Nekes. Alors, Hale, par exemple, n'est pas d'accord avec les critiques. Thibaut Inchep, c'est un homme qui promeut le sport, l'alimentation saine, qui fait découvrir des métiers, qui donne la parole à des gens qui ont subi des traumatismes, qui met en avant notre culture. C'est un gars simple et bienveillant. Alors, moi, je n'ai jamais rencontré, alors je n'ai pas d'avis personnel là-dessus. Moi, je. En tout cas, ça enflamme le débat. Ça enflamme le débat. Un gars qui n'est pas hypocrite, c'est rare dans le milieu, dit Loading BZH. Thibaut ne faisait pas du contenu assez intéressant à travers ses vidéos, du coup il s'est tourné vers les shorts, ce qui marche mieux. Alors que Squeezie est resté sur le format basique de YouTube, mais a innové dans ses idées. C'est un peu tricher ce qu'a fait Thibaut, me dit Human05 par exemple. C'est intéressant ce que vous dites. Ça m'intéresse parce que ça nourrit ma propre réflexion, par exemple, sur un sujet que je ne connais pas très bien. Moi, je ne connais pas très bien le contenu de Thibaut Inchep. Je ne connais pas très bien le contenu de Squeezie non plus. Alors, vous voyez. Donc, vous lire m'intéresse beaucoup pour même ma propre information. Quoi. C'est intéressant. Ok. La prog, c'est que je vais faire un petit stream de gaming ce soir, un peu de Valorant, même si, à mon avis, vous serez tous sur le match d'Amine, ou sur Zen, mais je serai là quand même, parce que je vous aime. Allez, on dépêche. Oh, dans 8 minutes, je dois partir. Allez, retrouver mon petit... Oui, ce soir, bien sûr, on fait double stream aujourd'hui. Un petit stream de... Pas PUBG ? Oh, on pourra faire un petit coup de PUBG, si vous voulez, on verra, on fera un petit sondage. Petit PUBG, petit Valo. Vous serez là, vous ? Oh, vous êtes gentil. Bon, rapidement, le sport. Bon, bah, moi, ça me fait rêver, ce truc. C'est à 14h, je crois, 14h30. Nadal, 14h30, Nadal Zverev. Merci, God is a cockroach. Merci en tout cas pour l'info. 14h30, 15h, peu importe, on s'en fout cet après-midi, c'est le match. C'est le match de Roland-Garros. Nadal, la légende, 14 titres à Roland-Garros, le roi de la terre battue. Un mec incroyable, l'increvable, le mec qui est allé au-delà de ses douleurs, le mec qui a poussé au bout du bout le concept de j'ai mal, je m'en fous, c'est mon rêve quoi, de jouer au tennis. Quoi. Nadal. Qui a sa statue immense à Roland-Garros. Voilà, il est sur la fin. C'est la fin de sa carrière. Federer a déjà tiré sa révérence. Ça commence à devenir un petit peu dur sur Djokovic. Voilà. Et là, il est 274e ou 280e joueur mondial parce qu'il n'a pas joué ces derniers mois. Il a beaucoup été blessé. Il n'est pas de tête de série à Roland-Garros. Du coup, pas de passe droit. Et du coup, il a un tirage pour son premier match qui est impossible. Il se tape Zverev, 4e joueur mondial qui vient de gagner le tournoi de Rome sur terre battue. Sur le papier, ça ne peut pas être gagné par Nadal sur le papier. Donc, je vous résume le papier. Hein. Sur le papier, c'est drôle, le papier, parce qu'un article, c'est un papier aussi. Sur, techniquement, statistiquement, Nadal ne peut pas gagner ce match contre Zverev. Statistiquement, sur le papier. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est plus compliqué que des statistiques, bien sûr. Chemical What the Fuck, merci pour le 33e mois. Tu le sais, Chemical What the Fuck, tu le sais, ça. Nadal, parce que c'est Nadal, parce qu'il a un mental en acier, parce qu'il connaît son corps parfaitement, ce dont il est capable et aussi ses limites, parce que c'est la terre battue, parce que c'est Roland-Garros, parce que c'est chez lui, il peut gagner, bien sûr qu'il peut gagner. Et ce serait fou et ce serait dingue. Comme le dit Taki Potter, ça va être une rencontre de malade mental, il ne faut absolument pas louper ça. C'est sur quelle chaîne d'ailleurs? Quelle chaîne où... C'est sur le service public, j'espère. C'est sur quoi? Quoi, France 4, c'est pas sur France 2? France 4 et France.tv? Je sais pas, France 2. Camille me dit France 2. Non, vous êtes sûr ou pas de l'info? Donnez-moi une info sûre. Bon, bref, service public en tout cas. Bon, à voir, obligé. Match incroyable. Nadal, je l'aime bien, mais honnêtement, on l'a trop vu, il faut laisser la place aux jeunes. Non, 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 non. Wolchin, Federer, a pas laissé sa place aux jeunes. Federer, il arrivait plus. Il gagnait plus de matchs. Il n'a pas laissé sa place aux jeunes. Les jeunes l'ont mis dehors. Comme les jeunes sont en train de mettre dehors Nadal aujourd'hui et les jeunes sont en train de mettre Djokovic aussi dehors. Ils ne laissent pas la place. Ils se font mettre dehors. C'est la loi du sport. Il s'agit... il a 38 ans, le gars. Mais il a 38 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il laisse sa place? C'est sa vie, c'est sa passion. Laissez-le tranquille. C'est fou, ça. Je supporte pas ce discours, je vais encore rager là. Mais laissez les gens vivre leur passion. Laissez les gens vivre leur passion. Le mec, il a 38 ans, bordel. C'est sa vie, c'est son rêve. Il aime ce jeu. Il va être en larmes quand il va arrêter tout ça. Il a 38 ans. Laissez sa place aux jeunes, mais il est jeune. Il est jeune. Il va se faire mettre dehors. C'est la loi du sport. De toute façon, par les jeunes. Voilà. Laissez-le vivre. Voilà. Il a eu une carrière incroyable. Respectons cet homme. Hein. Voilà, Nanaka, pour me faire sortir de mes gonds, mais il le dit avec beaucoup d'humour, Samuel Etienne, tu es trop vieux sur Twitch, laisse ta place sur Twitch. J'espère qu'un jour, personne ne me dira ça, laisse ta place sur Twitch, parce que c'est trop vieux. Je fais ce que je veux. Les vieux, s'ils veulent continuer à faire leur truc, laissez-les faire. Voilà, Nadal ou Samuel Etienne. Hein? Ou Michel Drucker. Quand je parle de Michel Drucker, j'ai le droit à chaque fois. Ah, Michel Drucker, il devrait laisser sa place. Mais laissez-le tranquille. C'est sa vie. Drucker, il n'a pas d'enfant. Il a pas de passion, à part le sport, un peu le vélo. C'est sa vie. Il est accro à ça, à la télé, à l'antenne. Au truc. Il aime que ça. Qu'est-ce que vous voulez lui enlever ça? Il arrête. Drucker, il arrête la télé, il meurt. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Voilà. C'est en train de se terminer doucement. Voilà. Si les gens veulent le regarder, si les audiences sont là. Non, il n'a pas d'enfant, Michel. Laissez-le tranquille. Vous voyez ? C'est fou, ça. Julien Lepers a bien été forcé de laisser sa place. C'est autre chose, ça. C'est parce que les audiences baissaient depuis 14 ans. Molybden, ça aussi, c'est toujours pareil. Le chat, il faut aller... quand tu donnes une info, il faut aller bosser l'info. Julien, en fait, il n'a pas été mis dehors parce qu'il était vieux. Julien, il a été mis dehors parce que l'audience baissait depuis 14 ans et que l'émission allait s'arrêter. Et donc, ils ont dit, une émission qui perd l'audience depuis 14 ans, on va l'arrêter. Et donc, à un moment, il y a des gens qui ont dit « Ah, bon, vous voulez pas qu'on essaye autre chose plutôt que fermer Question pour un champion ?» Et ils ont dit « Ah, ok, d'accord, on va essayer avec un autre présentateur. » C'est ça, l'histoire. Mais après, c'est un goat, le Perse. Jamais l'émission aurait duré 27 ans avec lui sans Julien Le Perse. Il a été incroyable. Jusqu'à un moment, il a été confronté à une concurrence accrue parce que les chaînes sont multipliées, la concurrence est multipliée et les audiences baissaient, et il n'y pouvait rien. Et puis, quand tu incarnes un programme pendant 27 ans... Il y a les gens qui ne le regardent jamais, qui disent « Ah oui, Julien Lepers, ah oui, formidable », mais qui ne le regardaient jamais. Ça, je vous connais. Hein. « Ah, oh, Julien, il est tellement bien, vous ne l'avez jamais regardé. » Il y a plein de gens comme ça. « Ah, oh, c'était tellement bien. Arrête, tu ne regardais pas, ce n'est pas vrai. »« Ah oui, non, la mer Noire, oui. » Non, mais en fait, tu ne regardais pas. Donc la preuve, c'est que les audiences baissaient depuis 14 ans. Donc, Donc, les gens se fatiguaient doucement. Et ils ont voulu arrêter l'émission. Et puis, à un moment, ils ont dit, bon, on va essayer autre chose. Voilà. Et l'autre chose, ça a été moi, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, d'ailleurs. Et on a fait repartir les audiences à la hausse. Ça fait 8 ans qu'après 14 ans de baisse, les audiences montent tous les ans. C'est comme ça qu'on a sauvé le jeu, en fait. Donc, il n'a pas été... C'était pas l'âge, en fait. C'était juste les chiffres. Bêtement, les chiffres, en fait. Et un jour, si on me met dehors, c'est pas parce que je serai vieux, parce que je suis déjà vieux, mais c'est parce que mes audiences auront baissé. Donc, comme les audiences sont bonnes, là, je touche du bois. Ça, pour l'instant, ça va. Et un jour, si le programme perd de sa dynamique et que les gens me regardent moins, je vais avoir un petit coup de fil du RH et on va me dire, dis donc Samuel. Je sais. C'est comme ça. Quoi ? Je comprends pas la question. Bon, rapidement, Charles de Monaco. Enfin, Charles Leclerc, voilà. Immense pilote, monégasque, pas français, mais monégasque. Voilà, qui vient de gagner sur ses terres à Monaco. Tu devrais démissionner après l'émission d'étoiles à ton prime, dit Yofara, ouais. C'est pas mal. C'est-à-dire que Étoile, il a toujours dit que s'il venait jouer, qu'il gagnait, il s'arrêtait. Il s'arrêterait après une victoire. Et toi, tu vois une scène où, genre, Étoile gagne, je dis, ce qu'il va sûrement, il va sûrement gagner, c'est obligé. Et je dis à Étoile, est-ce que tu veux revenir demain pour ton deuxième victoire ? Il me dit non. Je m'arrête là. Et toi, tu voudrais que là, je dise « Ok, moi aussi. » T'aurais de la gueule. T'aurais de la gueule. Ça rentrerait dans l'histoire de la télé, je pense. On n'y croit pas, il va rester. Oh, j'aimerais tellement qu'Étoile ne fasse pas ce coup-là. Que s'il gagne, il continue. Il a tellement le niveau pour enchaîner, pour nous gagner 2, 3, 4, 5 victoires. Je serais tellement triste. Mais il a toujours dit, ceux qui connaissent Étoile, vous le savez, hein, le jour où je viens à question pour un champion, si je gagne, je m'arrête après une victoire. Il me l'a dit 1000 fois. Et moi, je lui dis, putain, t'es fou, quoi. T'as tellement le niveau pour gagner plein de victoires, quoi. Ouais. Ah, il veut les 100% de win. Il n'y a plus super champion. Ouais. Il a toujours dit, ce qui n'intéresse pas, c'est... Ça n'intéresse pas la compétition, c'est le challenge de la première fois. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je suis sûr qu'il pourrait être tellement loin. Ouais. Enfin, bon, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est surtout ça. Charles Leclerc, GG, bravo. C'est la première fois que le Monégasque gagne chez lui. Voilà. Et surtout, quelqu'un me faisait remarquer tout à l'heure que, du coup, en général, c'était intéressant parce qu'il n'était pas très loin de Verstappen. Voilà. Et qu'on est que, vous me le disiez, vous, c'est pas moi qui le disais, c'est vous le saviez, qu'on est au premier tiers, à la fin du premier tiers seulement du championnat du monde. De Formule 1, peut-être que Leclerc peut rêver d'un titre. Ouais, ce serait incroyable. Les amis, il est l'heure, comme le dit Jérém dans le chat, il est l'heure d'aller chercher mon petit Solal pour l'emmener à l'école. Il est en petite section et il aime bien que je l'emmène à l'école. Cette année, quand on était très occupé avec sa maman, à un moment, il nous a dit « Ah là là, mais il y en a marre d'aller avec la nounou, puisqu'on a la chance d'avoir une nounou. » pour s'occuper des enfants et y en a marre et tout, il y a des parents et ils accompagnent tous les jours et tout. J'ai dit bah oui mais la maman là du coup elle travaille pas alors c'est plus facile. Il a dit bah oui mais quand même voilà, il était un peu triste. Donc du coup on fait des efforts pour essayer de l'emmener un petit peu à l'école et donc il m'a demandé ce matin, je lui dis, j'ai regardé mon agenda, je dis let's go, on va à l'école tous les deux. Il est dans cette école là la première année en petite section, il a que des demi-journées d'école. Il va que l'après-midi. Je trouve ça très bien d'ailleurs. Je trouve que c'est super. C'est une façon de commencer l'école cool. Tu vois, t'es pas en petite section directe, bam, toute la journée. C'est de demi-journée. Ou le matin, ou l'après-midi, selon ton mois de naissance. Moi, je trouve ça super. Moi, je trouve ça génial. Donc, j'aurais bien voulu avoir ça moi aussi. Traumatiser l'école, moi. Ça me faisait trop chier. Ça me faisait, c'était trop dur. L'école, je trouvais. Enfin, c'était une autre époque aussi, mais c'était. Pff, c'était un peu anxiogène, je trouvais. Bon, on fait un raid. Il fait même une petite sieste avant d'aller. Il est trop en forme, du coup. Alors, il y a qui en live, là, qu'on fasse un petit raid? Ouais, là, je vois déjà des trucs qui me font plaisir, là. Bon, là, il y a trop de trucs sympas, là. Ah, j'ai plein d'envie. Putain, j'ai trop d'amis sur Twitch maintenant. Ok. Attendez, laissez-moi regarder un truc, j'ai une petite idée là.
Ah, le discam.
Ok, je sais où je vais. Je sais où je vais. Ok. Certains me le proposent dans le chat d'ailleurs, et vous avez bien raison. Il y a une chaîne qui nous raide très souvent, que j'ai beaucoup raide aussi, parce que je trouve que c'est un beau contenu. C'est la chaîne d'un Français qui vit au Japon, qui fait des streams IRL géniaux, il nous fait découvrir le Japon. Il s'appelle Citron Violet. Voilà, et je lui rends la politesse parce qu'il m'a beaucoup raide ces derniers jours. Et c'est une façon de le remercier aussi, même si on s'est raide mutuellement pas mal déjà. Voilà. C'est une chaîne amie, Citron Violet, un Français qui vit au Japon. Et là, il est à Kyoto. Voilà, et il nous fait. Manifestement, c'est la nuit, là, c'est le soir. Ok. Je charge le raid. Je vous remercie pour ce matin. Vous m'avez régalé. Je vous retrouve ce soir, sachant qu'il y a des très beaux streams aussi. Il y a Amine qui fait un super truc. Il y a Zen, bien sûr, ce soir. Bon, n'hésitez pas à passer si vous avez un petit peu de temps à tuer entre deux trucs. On jouera à Valo, peut-être un petit peu PUBG pour se détendre, parce que l'actualité, ça va bien. Mais n'oubliez pas, ne vous chargez pas trop la tête avec l'info. Oui, il en faut pour comprendre le monde dans lequel on vit, mais protégez-vous aussi du trop d'infos, on en a parlé ce matin. Merci pour ce matin, je me régale. Et on va au Japon, magie d'Internet. C'est fou. C'est fou ce nouvel outil Internet, c'est incroyable. À ce soir.
Merci, Save Rock. Raid de quoi? J'ai raté un raid? Attendez, j'ai un petit bug là, de connexion. Ça va la connexion, ça bug pas trop là? Salut Saint-Brévert. Salut Zouzou, pardon, j'ai bégayé. Attends, ça coupe ou quoi là? Non, ça coupe pas. Attends, ne me dis pas que j'ai un bug de connexion maintenant. Attendez. Raid de Samuel? Merci beaucoup. Merci infiniment, attendez. Rassurez-moi, ça coupe pas là, la connexion. Merci infiniment, Samuel, pour le raid. Est-ce que vous me recevez? Ça marche ou pas là? Ça fonctionne? Ok, super. Merci beaucoup, Samuel, c'est très gentil. Bienvenue à tous. Je me présente très rapidement. Citron Violet, je vis au Japon depuis maintenant 6 ans. Je fais le tour du Japon en live. Donc on fait culture japonaise, festival, cuisine. Là, je regarde.